Bonjour, je suis David Manise, anthropologue, instructeur de survie et mouton à cinq pattes professionnel. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 18. Alors aujourd'hui, on continue notre petite série sur la cybersécurité avec Bruno, notre deuxième invité sur le sujet, qui va nous parler plutôt des aspects personnels de la cybersécurité, qui sont au final le deuxième échelon dans notre série. La première, donc épisode 17, qui parlait des infrastructures et de la cybersécurité des grands systèmes. Et aujourd'hui, on se penche sur notre cybersécurité personnelle.
T'es encore en santé, du coup tu peux te permettre. Mais quand t'auras mon âge, tu comprendras. Bon, bref. Écoute, merci Bruno d'être de nouveau... parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que forcément vous ne pouvez pas savoir, c'est la deuxième fois qu'on a réussi cette interview. Parce qu'on a eu des petits problèmes techniques de barbe qui frotte sur les micros. Et du coup, Bruno, dans sa grande gentillesse, a accepté de recommencer l'interview du début. Parce que j'étais en train de commencer à faire du patchwork en coupant des petits bouts de réponse pour essayer de retrouver la réponse d'origine à travers les bruits de barbe. Et c'était juste n'importe quoi. Du coup, bah, merci Bruno d'être de nouveau là. Et du coup, bah, pour ceux qui n'ont pas entendu la première interview, vu que je l'ai jetée, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, et nous raconter un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais là?
Ouais, mais merci de m'accueillir à nouveau. Pour faire très simple, donc j'ai fait des études dans le domaine de l'informatique et de la cybersécurité. Et assez vite, je voulais mettre les mains dans le cambouis. Donc j'ai trouvé des jobs qui me permettaient de m'y mettre et d'essayer pas mal de choses. Et donc je me suis baladé un peu, je me suis fait de l'expérience et je m'en fais toujours. Et quand l'occasion se présente, ben j'essaye de retransmettre un petit peu tout ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais a priori ça aide un peu.
Donc, eh ben, en tout cas, moi, à titre perso, tu m'as déjà grave aidé sur ma cybersécurité personnelle. Je me demande dans quelle mesure il y a matière à... Enfin, c'est un domaine qui évolue extrêmement vite et du coup, je pense qu'il y a, on va vite se perdre dans les détails techniques, mais ce que j'ai beaucoup apprécié de ce que tu m'as transmis hors interview, c'est que tu m'as transmis beaucoup de principes en fait qui sont vachement épurés et vachement simples à comprendre et qu'après on décline en applicatifs et en trucs à faire concrets, tu vois. Mais bref. Donc en gros, je veux pas qu'on saute direct dans le cœur du sujet parce que ça fait un peu rapide. J'aimerais bien que tu nous parles, si tu veux, en termes un peu généraux, de c'est quoi pour toi, quel est l'intérêt en fait d'avoir une cybersécurité perso, du coup, qui soit un peu solide. Pourquoi c'est utile en fait?
C'est utile parce que, déjà parce que c'est mon taf, donc c'est ça qui me fait manger, très égoïstement. Mais sinon, pour la plupart des gens, c'est utile parce qu'en fait, on vit dans un monde numérisé, tous les jours. Tous les jours, pour la plupart des gens, en tout cas, on utilise un téléphone, on va sur Internet, on fait des paiements en carte bleue, on passe sous une caméra de vidéosurveillance, on va prendre le télépéage, on va passer un pass de métro. Et tout ça, c'est numérisé. Nos impôts, on les paye en numérique aujourd'hui. La relation avec notre banque, on l'a quasiment plus en numérique. Voilà, tout passe par ça. Et donc, en fait, une voiture, tu vois, quand tu la prends, tu as juste besoin de savoir que tu tournes la clé, tu appuies sur la pédale d'embrayage, tu passes la première, tu fais un peu patiner, et hop, c'est parti, tu démarres. Ça monte dans les tours, tu passes la seconde, etc. Mais c'est quand même mieux si tu sais comment fonctionne un embrayage. Parce que du coup, tu vas pouvoir mieux utiliser ta voiture. Et tu pourras optimiser ta consommation de carburant, tu vas pouvoir aussi utiliser ton frein moteur pour passer en passant tes vitesses comme il faut quand tu ralentis, donc économiser sur tes plaquettes de frein. Et bien en fait, sur la partie numérique, c'est la même chose. Tu n'as pas besoin de savoir exactement quelle est la fonction qui est appelée pour faire ci et ça quand tu branches un câble réseau dans ton ordinateur. On s'en fiche. Par contre, c'est intéressant de savoir ce qui va se passer quand tu vas aller te connecter sur Google pour faire une recherche. Avec ton téléphone, avec ton ordinateur. Ou quand tu vas dire, hey Google, quelle est la météo dans telle ville? Ben, c'est intéressant de savoir ce qui se passe.
Ouais.
Parce qu'en faisant ça, en fait, en sachant ce qui se passe, tu vas arriver à savoir comment tout ça fonctionne. Et tu vas comprendre aussi que, en fait, tous les services que tu utilises sont pour la plupart gratuits, notamment sur Internet, mais qu'il faut bien qu'ils se rémunèrent, ça va te permettre de te poser plein de questions. Et donc, en fait, tu vas tirer un peu sur le fil de la pelote, et au final, tu vas te rendre compte de plein de petites choses auxquelles tu ne pensais pas forcément. Pardon. Et donc, ça amène après à plein de questions sur la vie privée, sur les traces que tu laisses, et je dis tout ça sans virer dans la paranoïa, hein, c'est pas du tout l'objet. Pour vraiment en fait comprendre ce que tu fais avec les outils numériques et comprendre aussi pourquoi certains outils numériques, bah, ils sont peut-être très intéressants, mais le jeu en vaut pas forcément la chandelle. Voilà. Donc tout ça, t'es obligé de t'intéresser un peu à ce qu'il y a en dessous, sous le capot, pour démarrer. Mais après, c'est ce que tu disais, c'est ce que j'ai essayé de te transmettre. La technologie bouge vite, mais les principes, c'est toujours les mêmes. Et donc de ça, tu vas dériver des grands principes que tu vas pouvoir, que tu vas, on va, on parlera sûrement d'analyse de risque juste après, et que tu vas pouvoir nourrir ton analyse du risque avec ça, par ton usage quotidien des moyens numériques, par les principes, et par aussi ce que tu as envie de faire, et ça va te permettre de décliner, ben, des choses que tu peux mettre en place pour, il n'y a pas de risque zéro, mais pour limiter la casse, si tant est qu'il y ait de la casse, parce qu'il y en a pas toujours. Entre
Ouais.
toi et moi, il y aura pas fort, on va sur un cas d'usage identique, on identifie peut-être que toi ça t'ira complètement, alors que moi je vais trouver ça inacceptable. Et donc soit je ferai le choix de ne pas m'en servir du tout, soit je ferai un choix intermédiaire. Alors que toi tu diras bah en fait je m'en fiche. Ou ce sera peut-être l'inverse. Moi je dirais ça passe pour moi, alors que toi ça t'ira pas du tout.
Ouais, c'est un outil de prise de décision au final.
Ouais, complètement.
Est-ce que, alors, je pose des questions naïves exprès. Est-ce que il y a un risque au niveau collectif, au niveau des infrastructures, au niveau des, j'en sais rien, des réseaux, des boulots, des usines, peu importe où on bosse ou peu importe les réseaux qu'on utilise, est-ce que à titre individuel, on peut être une brèche ou une porte d'entrée pour des attaques plus élaborées qui viseraient les infrastructures? Est-ce que on peut, sans s'en rendre compte, relayer des malwares, des worms, des virus, des trucs? Est-ce que on a un rôle à jouer en tant que citoyen dans la protection de nos infrastructures?
Un système d'information, ça se. Ça a cinq... en fait, ça... Il y a cinq grands composants dans un système d'information. Un système d'information, pour la faire simple, c'est un système qui permet de traiter de la donnée. De la créer, parfois, ou de la collecter, au moins, et de la traiter pour en ressortir quelque chose. Une entreprise, elle va. Je sais pas moi, une entreprise qui fait des pneus. Bon, ils vont faire des pneus. Ça, c'est du physique qui sort des entre qui sort... Il y a du matériel qui rentre et du matériel qui sort. Mais on va aussi récupérer des données de qualité sur les pneus, etc., pour améliorer les process. Voilà. Donc il y a toute une partie traitement de la donnée là-dedans. Et donc un système d'information, il y a une emprise physique, donc des bâtiments. On va avoir des matériels, des machines qui fabriquent les pneus par exemple, des logiciels, les logiciels qui font tourner les machines qui fabriquent les pneus, mais aussi le logiciel de compta, le logiciel de gestion RH. On va avoir des processus, parce que tout ça c'est cadré, un pneu ça se fabrique d'une manière bien particulière. Il y a peut-être, et j'espère, des contrôles qualité aussi. Il y a un processus pour la paye, pour la paye des fournisseurs, pour la paye des salariés, etc. Et dernier maillon de la chaîne, c'est les utilisateurs. Parce que ces machines-là, elles ne tournent pas toutes seules. Il faut des gens pour animer le système. Et donc, ouais, en fait, sur ces cinq piliers d'un système d'information, tu peux avoir des failles, et l'humain en fait partie, donc oui. Et sachant qu'un process, il est bien fait, bah, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5, c'est très séquentiel, c'est normalement bien fichu, tu peux même avoir des fiches récap, surtout pour les process qu'on n'utilise pas souvent. Mais un humain, bah, il va être faillible, parce que le matin, ce jour-là, tu t'es pas levé du bon pied. T'as pas eu le temps de te faire ton café en arrivant au bureau, et bah, manque de bol, t'as un truc super urgent qui est tombé, et t'as fait une boulette, et bah voilà. Et donc en fait, et c'est juste, ça peut être juste une faute d'inattention, ça peut être aussi un process qui a été mal fait et que tu as suivi, mais comme il y a une faille dans le process, bah on l'exploite. Et donc oui, l'humain a son rôle à jouer là-dedans. Et en fait, on ne pourra jamais complètement avoir un système qui soit complètement blindé d'un point de vue technologique, d'un point de vue informatique. Tout simplement parce qu'il faut quand même laisser de la liberté à l'humain, parce que si le process est trop figé, il peut plus évoluer. Et s'il peut plus évoluer, bah, il peut plus s'adapter. Et s'il peut plus s'adapter, il meurt. Ou l'entreprise meurt. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc il y a tout un juste milieu à trouver entre avoir quelque chose de suffisamment souple pour que ce soit évolutif, adaptatif, et suffisamment cadré, rigide, pour que ce soit bien limité, bien cadré, et qu'on ne puisse pas faire trop de boulettes. Voilà. Mais et là-dedans, en fait, dans cette limite qu'on laisse à l'humain, ben, il faut pas oublier son bon sens, le bon sens paysan. Il faut pas l'oublier, c'est un peu la base de tout. Et on va le voir, en fait, tous les grands principes dont on va parler, les process, etc., ben, en fait, ils dérivent de ça. Ils dérivent de ça. Mais en fait, pour nourrir ce bon sens, ces process et ces principes, ben, il faut un peu de connaissances. Parce que si je te dis, OK, demain tu vas à l'hôtel dans tel pays, ben, mets un VPN sur ton téléphone. OK, tu vas mettre un VPN sur ton téléphone, mais si ton VPN n'arrive pas à monter, ben, tu vas me regarder, tu vas me dire, en fait, je m'en fiche, je veux Internet, je coupe le VPN et j'y vais. Sauf que, comme tu ne sais pas pourquoi il faut mettre un VPN, ben, potentiellement, tu feras une boulette. Alors, ça se trouve, il ne se passera rien. Ça se trouve, il va se passer un truc, mais tu ne le verras pas. On ne sait rien. Et le VPN, est-ce que c'est vraiment la bonne réponse? Bah, tu peux en être sûr que si tu as les bons principes derrière et que tu as compris.
Ouais, donc si je récapitule un peu ta réponse, l'idée c'est que d'avoir des principes et une compréhension du fonctionnement des systèmes permet d'éviter les grosses boulettes et d'éviter et de calibrer de manière un peu intelligente le niveau de contraintes qu'on s'impose pour rester flexible, que ça reste utilisable et ergonomique, mais sans prendre trop de risques et en prenant des risques un peu calculés, quoi.
Oui, c'est ça, parce que après, on va pas transformer tout le monde en spécialiste. On a tous des domaines sur lesquels on est à l'aise, d'autres beaucoup moins. L'objectif, c'est d'avoir un petit peu de connaissances de base, déjà pour sa culture, pour pouvoir donner un peu de grain à moudre et un peu d'esprit critique par rapport à ce qu'on propose derrière. Et puis ensuite, les grands principes, ce qui est bien, c'est qu'en fait, les process, une fois qu'on y a réfléchi, faut les réévaluer de temps en temps, faut y repenser de temps en temps, mais on peut se reposer dessus. Et ça a un côté super confortable aussi. Tu réfléchis une fois pendant que tu es au chaud à la maison, et après, tu as juste à appliquer. Et c'est plutôt chouette.
Ouais, ça te permet de te libérer l'esprit pour faire d'autres trucs, quoi.
Exactement, et parce que le boulot, c'est pas d'être en sécurité quand tu navigues sur Internet. Le boulot, c'est bah, si t'es VRP, c'est d'aller vendre ce que tu as à vendre, etc. Si t'es chercheur, bah, c'est de pouvoir travailler sur tes documents de propriété intellectuelle en toute sécurité, etc. Mais en fait, si tu veux bien faire ton boulot, bah, tu es quand même obligé d'avoir quelques mesures de sécurité parfois qui sont en place. Et donc, si tu y as pensé en amont, c'est quand même beaucoup plus simple.
Ben ouais, clairement. Qui concrètement dans la vie peut être la cible de hackers, de pirates, d'espionnage, de trucs comme ça?
Et personne à la fois. En fait, tu vas avoir deux grands types de cibles. T'as celle qu'on va pêcher au chalut. C'est toi et moi, ça. Parce qu'en fait, on est des citoyens lambda. On fait pas, tu vois. On fait pas grand chose. On a pas grand chose à se reprocher. Si ce n'est de traverser une fois ou deux au piéton rouge, tu vois. Mais c'est à peu près tout. Et les autres, donc en fait, nous, va falloir qu'on fasse attention. On va pas aller sur n'importe quel site, à pas cliquer sur n'importe quoi, etc. Mais quelques autres petits trucs. Mais disons que c'est la. Si on parle en termes d'analyse de risque, c'est des mesures qui sont assez simples à mettre en pratique. Et après, tu as l'autre type de cible, celle qui est vraiment identifiée, ciblée. Et ça, bah, ça va être de l'opposant politique, du journaliste qui a mis son nez là où certains n'auraient pas voulu qu'il le mette. Ça va être, je sais pas moi, un chercheur qui travaille sur la propriété intellectuelle ultra sensible. Ça va être des gens comme ça. Et leur cas est complètement différent.
J'ose espérer que ces gens-là, ils ont. J'ose espérer que ces gens-là, ils ont quand même des briefings de sécurité, des gens qui leur expliquent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, mais bon.
Bon, on est deux.
Ouais. Cool. Du coup, ben écoute, en voyant du principe, c'est si tu avais, je sais pas, 5 trucs ou enfin une liste de trucs de base. De gros bon sens paysan à nous donner pour autant pour les petits poissons comme nous qui vont se faire pêcher au chalut que pour les gros poissons qui pourraient être la cible d'attaques plus ciblées. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment ça marche
Bon. En fait, déjà, petit ou gros poisson, la seule différence, ça va être le curseur. Un petit poisson, tu peux mettre le curseur assez bas. Un gros poisson, tu vas le mettre un peu plus haut. Qu'est-ce que ça change là-dedans? Ça va changer que ton exigence en termes de niveau de sécurité, elle va être plus élevée si tu es un gros poisson. C'est pas parce que tu es un petit poisson que tu n'as pas le droit à des grosses exigences aussi, mais tu vas pouvoir tolérer des choses qui te protègent un peu moins potentiellement. Donc là, c'est pour la partie gain en termes de sécurité. Mais il y a aussi deux autres critères à prendre en compte. Il y a un critère de coût. Quand je dis coût, c'est pas qu'un coût financier, c'est un coût humain aussi. Parce que si tous les jours tu dois mettre en pratique des mesures de sécurité informatique qui te prennent, je dis une bêtise, 2 heures dans ta journée, et que tu es un petit poisson, alors soit tu as que ça à faire, mais dans ce cas-là, je veux bien augmenter ma journée de 24 heures avec les heures que tu perds à faire ça, parce que moi 24 heures c'est pas assez, ou alors fais-en moins, t'as pas besoin. Par contre, si tu es un vrai gros poisson, et que dans ton analyse de risque, tu as identifié que ces mesures-là, tu en avais vraiment besoin. Bah ok, mais ça veut dire que tu perds 2 heures de ta journée en temps éveillé à faire ça. Donc soit tu rognes sur ton temps de sommeil, soit tu rognes sur ton temps éveillé. Mais dans tous les cas, c'est 2 heures que tu passes à faire ça.
Ouais.
Donc ça, c'est pour le coût humain. Coût financier, bon bah c'est simple, hein, c'est des euros. Est-ce que ça sert d'acheter un truc à 5000 euros alors que le truc à 5 euros te suffit? À voir.
Après, il y a plein d'analyses, de réflexions et de comportements qu'on peut avoir qui ne sont pas très coûteux en temps ni en pognon, globalement. Tu vois.
Complètement. Ah bah ouais, bah on en reparlera tout à l'heure. Il y a des outils dont je t'ai parlé. Et puis, ouais. Ceux-là, c'est des outils, tu as vu, qui sont assez faciles à mettre en place, qui ne coûtent pas cher, voire rien, et qui permettent même de gagner du temps pour certains.
Clairement, oui. Donc, premier principe, si je récapitule.
T'as un dernier élément à prendre en compte aussi, c'est l'utilisabilité. Est-ce que la mesure de sécurité que tu vas employer, elle est facile à utiliser ou pas? Si je reprends l'exemple de la voiture de tout à l'heure, un siège de voiture, c'est plutôt accueillant normalement. C'est bien dedans, tu peux rouler 4, 5, 6, 7 heures dedans. C'est pas très grave, ça va le faire. Mais il y a aussi des mesures qui peuvent être beaucoup moins agréables à utiliser, même si elles sont efficaces. Imagine maintenant que je remplace le siège de ta voiture par une planche à clous. Tu vas t'asseoir, ça va piquer, tu vas crier, tu vas m'insulter, mais ça va quand même marcher parce que tu pourras utiliser ta voiture. À peu près.
Ouais.
Et puis, tu vas vouloir sortir de ta voiture. Bah, tu vas une nouvelle fois crier, m'insulter, mais tu auras pu utiliser ta voiture. Mais en fait, ta voiture, est-ce que tu auras envie d'y revenir?
Non.
Pas vraiment, hein?
Non, clairement pas.
Bon. Et ben bah voilà. Donc en fait, il y a ces 3 critères à prendre en compte. Et donc, si tu es un très gros poisson, bah, tu pourras peut-être tolérer un peu plus des mesures qui sont peut-être pas très agréables à l'usage ou qui te contraignent beaucoup. Mais tu les utiliseras peut-être quand même avec parcimonie. Mais surtout, tu as intérêt à bien savoir pourquoi tu les utilises. Parce que sinon, au bout de 2 jours, tu vas arrêter.
C'est clair. Du coup, si je récapitule, le premier principe, c'est d'avoir un truc qui a un niveau adapté à la fois de coût, de contraintes et d'utilisabilité.
Ouais, c'est ça.
Ok, donc adapter sa sécurité à ses vrais besoins et à ce qu'on est prêt à faire, quoi.
Exactement. Mais et ça, ça impose de connaître tes usages, Donc d'avoir fait une cartographie de tes usages, en fait, de réfléchir à ce que tu fais dans le quotidien. Donc faut se poser et écrire tout ce qu'on fait. Enfin, après, chacun sa méthode. Mais ça implique d'avoir fait ça. Et donc faire ça, ensuite, ça te permet de dérouler une analyse du risque. Parce que tu vas te dire, OK, avec telle activité, ben, il y a tel risque. Il y a tel risque, tel risque, tel risque. Et donc ensuite, pour chaque risque, tu vas arriver à voir si s'ils sont acceptables ou pas. Mais un risque acceptable, ça veut dire qu'il peut arriver. Et s'il arrive, par exemple, le risque de perdre mon téléphone, mettons que je me déplace souvent et que j'ai un seul téléphone sans sauvegarde dessus, sans sauvegarde. J'ai un risque non négligeable, si je suis maladroit, de perdre vol casse. Ou juste qu'il tombe en panne sur ce téléphone. Et si je me dis, OK, j'accepte, ben ça veut dire que demain, perte vol casse marche plus sur le téléphone, ben j'accepte d'être le bec dans l'eau. Alors que sinon, une mesure que j'ai, que je pourrais mettre en place, ça pourrait être de faire des sauvegardes régulières. Ça pourrait être, même si j'aime pas ça, de faire de la synchro sur un cloud. Mais ça implique d'autres choses, on pourra en reparler si tu veux. Mais ça implique pas mal de choses. Mais derrière, ben, la sauvegarde régulière, hors ligne, niveau utilisabilité, ça peut être un peu contraignant. Parce que ça veut dire qu'il faut que je prenne mon téléphone, que je le branche, que j'aille dans le logiciel, que je fasse clic, 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 clic. La sauvegarde, il faut peut-être que je la gère aussi. Donc qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la garde à un seul endroit? Est-ce que je la chiffre? Est-ce que je la chiffre pas? Enfin, ça pose plein de questions. Et donc, en fait, rien que déjà connaître ses usages et se faire une petite liste de tout ce qui peut nous arriver comme tuile, parce que Murphy n'est jamais loin, ça permet déjà de se rendre compte de pas mal de choses.
Est-ce que tu fais une hiérarchie, par exemple, entre les données hyper importantes, sensibles, précieuses, etc. Est-ce que tu as un système de classification pour les contenus du téléphone que tu veux pas perdre, péter ou
Ah. Le téléphone, j'essaye d'en mettre le moins possible dessus. Parce que finalement, c'est un ordinateur sur pattes. Enfin, les pattes, c'est moi plutôt, mais c'est un ordinateur que j'ai dans la poche. Et il y a pas mal de choses dessus. Dessus, sur un smartphone, tu peux avoir tout. Tu peux avoir ta banque, tes mails, tes SMS. Il y en a même qui ont leurs impôts, qui ont le chiffre de vente en temps réel de leur boîte. Enfin, tu peux avoir plein de choses dessus. Mais est-ce que tu as besoin d'avoir tout ça?
Ça peut être pratique, mais effectivement, est-ce que tu as vraiment besoin, tu vois?
Voilà, c'est déjà une question qu'on peut se poser, en fait. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire la liste. Parce que cet effet liste, ça peut faire un peu peur. Mais après, ça permet de se poser aussi les bonnes questions. Et puis l'analyse du risque, elle est là pour aider aussi. Pour donner un petit peu la méthode. L'analyse de risque, donc on va prendre bah par exemple le scénario de perte vol casse de mon téléphone. Il a une probabilité que ça arrive entre 0 et 5 et un niveau d'impact entre 0 et 5. Ça me donne un chiffre entre 0 et 25 quand je fais la multiplication. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on pourrait très bien le faire au doigt mouillé. Le doigt mouillé, ça marche très bien aussi. Mais pourquoi est-ce que la première fois ça vaut le coup de le faire en chiffres? C'est parce que comme ça permet d'hiérarchiser ses risques. Parce que je pourrais me dire que certains risques, bah, en fait, ils ont une valeur beaucoup plus entre 0 et 25 beaucoup plus élevée que perte vol casse de mon téléphone. Et en fait, je me rends compte que c'est pas vrai. C'est perte vol casse de mon téléphone où il y a le plus de où le risque est le plus élevé. Donc ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village, de tout replacer. Et d'ailleurs de se poser des questions là-dessus. Et donc ensuite, comment est-ce qu'on choisit si on traite un risque ou pas, bah par exemple, je vais me dire que tous les risques en dessous de 12, je les traite. Au-dessus, pardon, de 12, je les traite. Donc tout ce qui est en dessous de 12, ben, OK. OK. Mais quand je dis OK, par exemple, pour le téléphone, si je veux pousser le vice jusqu'au bout, je dis OK, mon téléphone, il vaut, mettons, 500 euros. Ben, ça veut dire qu'il faut que j'ai une enveloppe de 500 euros qu'il soit dispo en permanence. Parce que certes, j'accepte perdre Volcas du téléphone, mais j'ai quand même besoin d'un téléphone. Donc il faut que je puisse en racheter un vite.
Moi, je pousse le vice plus que ça. J'ai toujours un téléphone de backup, tu vois. J'ai la vieille version de mon téléphone actuel qui est clonée à peu près avec tous les fichiers à jour. Mais ça pose le risque de est-ce que je me fais piquer mon backup dans le tiroir à la maison, tu
Ouais, à un
Bref.
moment, t'es chez toi aussi.
Oui.
Et puis et tu mais tu veux avoir le ton vieux téléphone en backup, bah c'est une mesure aussi. Donc en fait, tu réduis un peu le risque.
Ouais, mais là où je veux en venir, c'est que effectivement, à force de prendre des mesures, ben, il faut aussi analyser le coût des mesures et le risque qui est associé aux mesures, et c'est un peu sans fin, tu
Bien
vois.
sûr. Ah ouais.
J'aime bien ta méthode de prendre les plus gros risques dans l'ordre, tu vois. C'est un peu comme quand tu vas alléger ton sac à dos, ben, tu commences par les items les plus lourds et tu réduis sur ces trucs-là, et après,
Ouais.
couper le manche de la brosse à dents, c'est peut-être le dernier truc qu'il faut faire, tu vois.
Ouais, mais c'est le truc à la mode de couper la brosse à dents, non?
Ah, typiquement. Tout comme avoir un gros VPN bien vénère, c'est hyper à la mode, mais c'est pas toujours forcément utile quand on est en France sur notre réseau privé, quoi.
Ben ouais, c'est ça, ça dépend. Mais en tout cas, l'intérêt de la méthode, l'intérêt de l'analyse du risque, c'est vraiment de se poser les questions. Et après, l'objectif, en fait, pour moi, c'est. Et en particulier pour Monsieur Tout le Monde, en fait, c'est que le numérique, c'est un bon outil, mais il faut l'utiliser à bon escient. Quand tu as un marteau dans la main, tu vois que des clous. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est que quand tu as besoin d'un marteau, tu prends le marteau qui est sur la table, le reste du temps, tu as autre chose dans la main, ou rien.
Ouais, c'est clair.
Mais pour ça, il faut se poser la question de son usage. Et ça permet aussi d'être moins dépendant de ces outils-là.
Ouais, de manière
D'avoir un
générale,
usage
c'est de se
raisonné.
poser la question de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, tu vois, c'est quoi nos objectifs de vie, et est-ce que le téléphone est un outil utile pour nous, et si oui, comment on s'en sert, quoi.
Ouais, c'est ça. Et donc c'est tout l'objet en fait de la démarche. En particulier quand on n'a pas des vies ou des professions à risque numérique, hein, je parle.
Ouais.
Donc ouais, l'idée surtout là en fait, c'est que ce soit plus un poids, c'est que ce soit vraiment utile d'avoir ce genre d'outil avec nous. Mais quand même qu'on le fasse en sécurité et en conscience.
Ouais. Et l'analyse de risque permet ça, de fait.
Ouais, exactement.
Bon, déjà, enfin, j'ai envie de dire, pour pouvoir faire une bonne analyse de risque, il faut déjà avoir des bonnes connaissances du sujet, j'imagine. Comment on fait quand on n'y
Comment
connaît
on
un peu
fait?
mais pas grand-chose?
Ben, je vais reprendre mon exemple de voiture, parce que je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de parler voiture. Il y a l'exemple de l'embrayage. Ben, en fait, tu as des pages Wikipédia qui t'expliquent comment fonctionne un embrayage. Tu as des vidéos sur YouTube qui te font des jolies représentations 3D qui t'expliquent comment fonctionne un moteur à explosion, une boîte, avec l'embrayage qu'au milieu. Et donc en fait, il y a des sources d'infos qui sont ultra fiables, qui marchent très bien, et où on va tout vulgariser. Encore une fois, pas besoin de savoir coder en Python, en C++, en assembleur, d'aller comprendre ce que c'est que tel paquet ou tel protocole qui passe sur le réseau. On s'en fiche. Ça sert à... Enfin, si, c'est utile, mais pas pour ce qu'on veut faire là, aujourd'hui, maintenant. Ça sert pas à grand-chose. Par contre, se renseigner sur la différence entre ce que c'est que le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique, ça peut être intéressant. Parce que comme ça, tu vas comprendre que sur du chiffrement symétrique, si tu partages ton mot de passe, si tu partages le mot de passe ou la clé qu'il a utilisée, bah en fait, on ne saura jamais qui a eu accès au truc, parce que y a besoin que, en fait, c'est comme un cadenas, il y a une seule clé et tout le monde se la repasse. Alors que sur de l'asymétrique, bah, tu as besoin d'une clé pour chiffrer, une clé pour déchiffrer. Et tu as encore d'autres modes de chiffrement qui permettent de faire d'autres choses. Et ça, c'est intéressant de le savoir. Tu as des gens, des chercheurs, des spécialistes, pardon, qui font des classements sur les applications de messagerie chiffrée, par exemple, messagerie sécurisée, qui vont t'expliquer qu'il y en a, c'est du vent, que d'autres marchent mieux. Donc, tu as plein de petites choses comme ça, tu as plein de ressources. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, souvent, tu as des ressources comme l'EFF qui sont pas mal. Tu as le site de l'ANSSI pour en France. C'est très bien. Voilà. T'as
L'Annecy, c'est vachement bien.
l'avantage
Je suis allé
d'une.
faire un tour sur leur site l'autre fois, enfin, du coup, j'y vais régulièrement, mais c'est hyper bien foutu. Il y a vraiment du boulot de fait,
Ah, c'est top.
phénoménal.
Oh, c'est top. L'Annecy, il bosse super bien. T'as Wikipédia, c'est pareil, tu as une bonne curation qui est faite dessus. Tu peux avoir des choses vraiment intéressantes. Donc, et après, bah après, faut pas hésiter à regarder sur tout ce qui est vulgarisation. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller savoir ce que comme d'aller connaître le bit de gauche, le bit de droite, ça sert pas à grand chose pour ce qu'on fait.
Yes.
Mais se faire expliquer le fonctionnement d'un VPN, la différence entre un VPN et Tor, c'est pratique. Surtout pour l'application derrière des principes. Et pour comprendre pourquoi c'est utile, à quoi ça sert.
Ouais.
Et un VPN, ça s'explique avec un schéma, hein.
Ah oui. Clairement. Ok, donc comprendre comment ça marche pour faire une bonne analyse de risque, ça c'est le deuxième principe, si je récapitule.
Ouais.
Yes. Troisième principe.
Ouais. Tu m'embêtes, faut que j'en trouve d'autres maintenant. Je suis allé trop
Mais
vite.
on peut continuer à discuter du premier et du deuxième pendant un moment parce qu'il y a encore de quoi en dire. Mais
Oh oui, il y a plein de choses à dire.
ouais.
Il y a plein de choses à dire. Si, tu vois, tout à l'heure, on parlait du coup. Du coup, en temps. Souvent, quand je t'ai parlé de qui passe,
Qui passe, ouais.
ben, tu vois, qui passe, typiquement, tu as un coup d'entrée. Parce que tous les mots de passe que tu as sous ton clavier sur un post-it, que tu as dans une belle feuille Excel, dans un bloc-notes, ou juste carrément sur un post-it, le coller au niveau de ton écran, parce que comme ça, tu as juste à bouger les yeux pour recopier, ben, il faut tous les basculer dans le conteneur qui passe. Qui passe, pour expliquer un peu ce que c'est un conteneur chiffré sur lequel on va pouvoir stocker les identifiants des mots de passe, les trier par site, etc., faire des sous-dossiers, générer des mots de passe automatiquement. Et en gros, c'est un carnet, mais chiffré et disponible sur un ordinateur. Ben c'est super pratique, ce truc.
Et en
Et
plus,
donc, une fois que tu as passé
il t'évalue la complexité de tous les mots de passe que tu peux lui proposer si jamais t'en as que tu utilises ou quoi.
Ouais, aussi.
C'est vachement
Ouais.
bien.
Il va te permettre de faire ça. Et puis, si tu as envie de changer ton mot de passe, tu as juste à lui demander de t'en générer un nouveau, il va te le générer. Et puis, c'est bon. Tu as juste à faire copier-coller sur le site web et c'est fini. Ben, ce truc-là, en fait, il est vraiment simple à utiliser. Une fois que tu as passé la première barrière de ah, faut que je bascule tout dedans, et que tu t'es dit ah, il fallait que je me mette un gros mot de passe dans la tête, parce qu'il faut bien l'ouvrir ton conteneur, il faut bien qu'il soit protégé avec quelque chose, ben, c'est réglé, c'est simple.
D'ailleurs, à ce
Et
sujet,
ouais.
qu'est-ce qu'un bon mot de passe?
Un bon mot de passe, alors ça dépend. Un bon mot de passe qui va être retenu par qui passe. C'est un truc long, inintelligible, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de variété dans les caractères. Mais tu t'en fiches parce que c'est KeePass qui le retient pour toi. Et un bon mot de passe que toi, tu vas retenir, c'est long, avec pas mal de variété. Mais surtout, tu vas pouvoir le retenir facilement. Parce que si tu as des astérisques partout, des 4, des 6, des U avec des accents, des dollars dans tous les sens, je sais pas toi, mais moi, j'y arrive pas. Donc, un bon mot de passe que tu vas pouvoir retenir, bah, le plus simple, c'est de prendre des mots qui n'ont rien à voir entre eux, parce que si tu prends le titre de ta chanson préférée ou la première phrase de ta chanson préférée, bah, déjà ça a du sens parce que c'est une phrase, et puis en plus, bah, on sait que c'est ta chanson préférée. Donc, il vaut mieux prendre plein de mots qui n'ont rien à voir ensemble. Et puis, bah, t'en prends, je sais pas moi, ça fait entre 30 et 40 caractères. Et ça fait un mot de passe sympa.
Ouais, 8-10 mots, t'es bien, quoi.
8-10 mots, c'est bien énervé déjà. T'as pas besoin d'en mettre autant.
Ouais. Yes. Cool.
Si. Est-ce que si on dit que le troisième principe, c'est faire simple, ça
Ah ben, c'est toi le chef, chef.
Parce que tu vois, le coup du mot de passe, c'est ça, en fait, c'est de faire simple.
Mais pas simpliste.
Parce que ce qui. Non, pas simpliste. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut que ce soit simple pour nous, compliqué pour la machine. Parce qu'en fait, c'est une machine qui va te le casser, ton mot de passe. Enfin, qui va essayer de le casser.
Ouais, donc du coup, plus c'est long, plus il va y avoir de combinaisons possibles, plus ça va prendre de temps, déjà, de base, quoi.
Ouais, ça c'est le modèle simpliste justement, parce que pour casser des mots de passe, on utilise souvent des dictionnaires.
Ouais.
Les dictionnaires, en fait, c'est des ensembles d'éléments connus qui sont souvent utilisés dans des mots de passe. Et donc on va essayer de les combiner dans tous les sens. Enfin, il y a des algorithmes un peu particuliers qui fonctionnent avec ça et qui font du parallèle massif pour essayer pour tester le plus de combinaisons possibles et essayer de les casser. Voilà, c'est comme ça qu'après tu peux te retrouver avec des statistiques de quels sont les mots de passe les plus utilisés cette année-là. Parce qu'en fait, ils prennent tous les leaks de base de données de l'année, ils les testent, et puis tu as tous les passwords 1, 2, 3 qui ressortent. Et donc comme ça, ils font un palmarès qui est à base de passwords 1, 2, 3, passwords 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ouais, le bon vieux password qui est password, il y en a pas mal
C'est
encore.
ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bah attention, parce qu'ils ont mis un 4 et un 0, hein, à la place du A et
Ah,
du
mais
O.
alors on est sauvé, quoi.
Ah, on est sauvé. Grosse sécurité.
Ouais. Bon, n'empêche, j'ai l'impression que s'il y a plein de mots, même si c'est avec une attaque de dictionnaire lambda, s'il y a plein de mots qui sont pas dans une suite logique qu'on peut pas deviner, parce que même si on nous connaît et qu'il y en a plusieurs, ça devient quand même assez compliqué à péter, quoi.
Bah, c'est plus compliqué, ouais. C'est plus compliqué.
Enfin, c'est plus long, quoi.
Après, c'est jamais impossible, en fait. Parce que l'autre
Oui.
question qu'il faut se poser, mais ça, t'as pas la main dessus, c'est de savoir comment est-ce que le mot de passe est stocké dans la base de données du site web ou du service sur lequel tu as enregistré. Il arrive, parfois, que ce soit en clair.
Ouais, j'ai déjà eu le cas, ouais.
Voilà. Mais bien sûr, ça n'arrive quasiment jamais. Vous voyez pas, mais je fais un gros clin d'œil, bien appuyé.
Ouais, et moi je secouais la tête en mode ouais, bon, d'accord, mais c'était pas visible à l'audio. Ouais, et ça arrive assez souvent, et d'où l'intérêt d'avoir un seul mot de passe par site ou par application, quoi.
Ouais, voilà. Et donc on en revient à KeePass qui règle bon problème avec un seul outil.
Et ouais.
Voilà. Mais
Et
qui en
qui en
pose d'autres,
plus.
parce que ça veut dire que tous tes mots de passe sont centralisés et protégés par un seul mot de passe.
Ouais. Et
Donc
si
il
tu
faut
le
qu'il
perds,
soit
t'es
robuste.
mal.
Si tu le perds, t'es mal parce que là, il n'y a pas de fonction de récupération de mot de passe.
Et l'intérêt, c'est comme l'archive elle-même est cryptée, on peut la stocker sur un cloud sans trop de soucis.
Ouais, je préférerais dire qu'elle est chiffrée, mais ouais.
Oui, chiffrer si tu préfères. Moi, j'ai pas les bons mots. Moi, je suis instructeur de survie,
Ouais,
monsieur. Faut pas
non,
me
mais
disputer.
t'as l'excuse. En fait, il n'y a que Canal+ qui est crypté
Ah,
par
d'accord.
abus de langage.
Ok.
Et parce qu'en fait, sinon, tu vois, chiffrer, ça, c'est prendre un clair, le passer dans un algorithme avec une clé de chiffrement,
Ouais.
et ça te donne un chiffré.
Ouais.
Donc, il n'est pas intelligible si tu connais pas l'algorithme et si tu n'as pas la clé pour déchiffrer. Décrypter, tu as le chiffré, et tu arrives à péter le chiffre pour récupérer un clair. Et donc crypter dans ce sens-là, ça n'a pas de sens. Donc crypter pour moi, c'est mettre entre six planches sous terre,
Ok,
avec
ouais.
une stèle par-dessus.
D'accord. Ça me va.
Voilà.
Donc je dirais chiffré à l'avenir. Comme ça, j'aurais moins l'air
Merci beaucoup.
d'un pecno. Cool.
Non,
Donc,
parce que
comme l'archive
c'est juste
est... Ouais, je t'écoute.
je. Non, c'est juste que je joue sur les mots parce que régulièrement je le vois même dans des trucs spécialisés. Et bon, c'est un peu dommage.
Ouais, j'entends. De fait, comme l'archive est chiffrée, on peut se permettre de la mettre par exemple sur Dropbox et de la synchroniser entre tous nos appareils sans que ce soit trop risqué.
Exactement, en fait, si tu as confiance dans le chiffrement qui est utilisé avec KeePass, tu peux, parce que de mémoire, c'est validé ANSI, et que tu as mis un mot de passe robuste, en fait, le cloud prend tout son intérêt. C'est pour ça que je disais que je ne l'aimais pas tout à l'heure, c'est parce que si tu mets du clair sur un cloud, le cloud, faut se rappeler que c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc si tu mets du clair sur un cloud, tu donnes à quelqu'un d'autre l'accès à tes photos, à ton numéro de téléphone, à tout ce que tu as mis en clair dessus. Alors que là, comme c'est toi qui as la clé de chiffrement de ton conteneur qui passe, bah, c'est pas très grave. Tu as mis quelque chose sur le cloud que quelqu'un ne peut pas utiliser. Et si Dropbox a envie d'aller voir ce qu'il y a dedans, bah, ils verront juste que c'est un gros truc chiffré et qu'ils ne peuvent pas regarder.
Ouais, tout à fait. Qui passe, donc c'est KEYPA2S
Non,
pour tout ça.
K2E, PA2S.
K2E
Ouais, PA2S.
PA2S. Et
Et le site, c'est KeePass.info.
ouais.
Parce que tu m'avais fait la remarque l'autre fois.
Ouais, je l'avais cherché. Et effectivement, dans l'environnement Mac ou Apple, c'est Strongbox. Ils ont fait un portage qui s'appelle Strongbox. Alors, je ne sais pas s'il est validé ANSI aussi, etc. Mais j'imagine que c'est le même truc à vérifier.
Ouais, après, tu vois, encore dans la série Faire Simple, tu as des petits trucs comme la capote USB.
Ouais.
On a déjà parlé tous les deux.
Ouais.
La capote USB, c'est un. Donc, c'est un. C'est juste. Ça ressemble à une espèce de petite clé USB, sauf qu'il y a aussi un port USB femelle dedans. Et l'intérêt de ça, c'est qu'en fait, on va le mettre en coupure entre un port USB qu'on va trouver dans les gares, dans les abribus, ou l'ordinateur de quelqu'un, et notre téléphone, par exemple. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, ça empêchera toute la donnée de passer. Donc il y a uniquement le courant électrique qui passera,
ouais.
Ce qui permet de recharger notre téléphone ou notre truc sans risquer d'avoir un flux de données qui passe.
Ouais. Donc
parce
sans
que,
risquer de se faire injecter un malware ou de se faire pomper ses
voilà,
données.
C'est ce que j'allais te dire. En fait, si je ressors ma casquette de paranoïaque, je sais pas si dans les gares ou dans les aéroports, le port USB qui est dans le mur, c'est juste un port USB avec de l'électricité. Et si derrière, il n'y aurait pas un petit ordinateur. Alors là, je fais le paranoïaque et on va me dire, ouais, mais t'es pas un gros poisson, je te rappelle. C'est vrai. Mais en même temps, une capote USB, ça coûte 5 euros. Ça prend peu de place. Disons que ça apporte une petite tranquillité pour pas cher du tout.
Clairement.
Et puis, ça me permet aussi de laisser des gens avec qui je me déplace recharger leur téléphone sur ma batterie ou sur mon ordinateur, alors que je ne sais pas du tout ce qu'ils font avec leur téléphone. Enfin, si je sais, ils font n'importe quoi avec. Donc ça me permet d'être un peu plus tranquille aussi dans ce cas-là. Ça m'évite de passer pour un gros malpoli. Voilà. Juste qu'ils vont me demander ce que c'est que le petit truc rouge que j'ai mis entre ma batterie ou mon ordinateur et leur téléphone. Voilà.
Parce que même une batterie, comme il y a du logiciel dedans, ça peut se faire infecter et retransmettre des saloperies, si je comprends bien.
Ben, disons que tant qu'à avoir une capote USB, autant s'en servir partout.
Ouais, c'est le principe de je réfléchis pas, je fais toujours pareil et ça marche.
Ben, alors je réfléchis pas, non. J'ai réfléchi avant.
Oui, enfin, je réfléchis pas dans l'action, j'ai réfléchi, j'ai fait mon travail
C'est
avant
ça,
et du coup,
ouais, voilà.
quand je fais des trucs,
C'est
j'ai pas
ça.
besoin d'y réfléchir encore.
Exact, j'ai plus besoin de penser. C'est automatique. Ça, c'est quand
Yes.
même pratique.
Bah ouais, carrément. Carrément, et tu vois, ça m'est arrivé plein de fois dans des taxis ou dans des VTC où le mec me dit si vous voulez brancher, si vous voulez charger votre téléphone, et puis il me tend un fil USB. Et ça me fait toujours, mais je te connais pas assez, tu vois.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais j'ai le cas d'un ami, une fois qui me racontait ça, il était dans le train, il revenait. À l'époque, il faisait des tests de pénétration de système informatique. Donc, en gros, c'est un hacker que les entreprises vont payer pour arriver à rentrer chez elles et leur expliquer comment ils ont fait pour que derrière, les entreprises puissent s'améliorer. Et il était dans le train, il revenait, et sa voisine lui dit, vous avez pris la prise 220 volts, mais j'ai plus de batterie sur mon téléphone, ça vous dérange si je branche mon téléphone sur votre ordi? Et lui est sympa, donc il a dit oui. Et puis comme il est joueur, il a pas mis la capote. Et c'était il y a quelques années où les téléphones étaient un peu moins durci que maintenant. Et puis en rentrant, il m'a dit, hey, tu sais quoi, j'avais accès à tout. Et comme c'est un mec sympa, il a rien fait, mais voilà. Et ça, voilà.
Faut pas brancher
Les
son
trains pour ça,
téléphone
c'est
sur
assez magique.
n'importe qui, quoi.
Ouais, c'est ça. Faut pas brancher ses affaires n'importe où. Mais de toute façon, les trains, c'est assez rigolo. À chaque fois qu'on prend le train, enfin, le nombre de gens qui bossaient pour des grosses boîtes, qui laissaient des présentations, alors qu'ils avaient leur ordinateur déverrouillé avec des présentations confidentielles dessus, alors qu'ils allaient aux toilettes.
Ah ouais, c'est clair.
Non, les trains, c'est assez rigolo.
Voir qu'ils passent des coups de fil un peu sensibles au milieu du wagon, il faut chier tout le monde, en plus en divulguant des données sensibles, quoi.
Mais tant que faire, autant le faire bien.
Bah ouais, bien sûr. Ah là
Ouais.
là, ouais. Yes. Donc, faire simple. Ça,
pour simple.
ouais, avoir des process simples qui, du coup, t'obligent pas à réfléchir à chaque fois et qui font que t'as des données, t'as des ressources système pour penser à ta vie, quoi.
Ouais. Je vais m'en mettre là, je voulais que le quatrième soit les process.
Ah oui, ben, attends, je le reformule, le simple, si tu veux.
Non, on va retrouver. Non, parce que si tu veux, le problème là, c'est que ma méthode est simple. Résultat, il n'y a pas beaucoup d'items, tu vois.
Ouais, en fait, il y a des grosses poutres et après on peut mettre vachement de types de plafond dessus, quoi.
Bah, en fait, tu peux mettre tout ce que tu veux dessus, mais c'est comme c'est solide, c'est pas grave.
Ouais, c'est clair.
Tu peux même faire la flemme et empiler les couches, si t'as pas envie de défaire.
Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai toujours mon vieux fichier de mots de passe en clair sur mon bureau de laptop, tu vois, avec plein de mots de
Hein?
passe obsolètes dessus. Du coup, si je vois quelqu'un utiliser ces mots de passe-là pour essayer de péter des trucs, ben je sais où il les a trouvés, tu vois. Et donc je peux commencer à investiguer. J'adore parce que en fait, la sécurité informatique, c'est pareil que la sécurité dans tous les autres domaines, tu vois. C'est ralentir la pénétration, essayer de détecter, essayer d'obliger l'autre à laisser des traces pour pouvoir le retrouver derrière. Enfin, c'est pareil, quoi.
Oui, c'est pareil, en fait. Et puis, c'est pareil, et puis c'est aussi compliqué que dans les autres domaines, parce qu'en fait, quand tu as un château fort, tu es obligé de t'occuper des murs. Mais en fait, l'adversaire, il peut aussi avoir des sapeurs qui vont essayer de passer en dessous. Et puis, il peut aussi essayer de t'envoyer des trucs par le ciel. Donc, faut que tu essayes d'avoir une. Et d'où l'intérêt de te poser et d'essayer de voir un peu ce que tu fais. Il faut que tu arrives à avoir une bonne compréhension de ce que tu fais. À titre perso, à titre pro, éventuellement des gens qui sont autour de toi et qui interagissent avec toi aussi. Parce que si tu as des grands inconscients autour de toi et que ces gens-là n'arrivent en fait, ils comprennent pas, ils veulent pas comprendre ou quoi, il va falloir que toi tu durcisses pour eux, pour te protéger toi. Parce qu'en fait, il y a des maillons faibles de la chaîne à côté de toi, et donc ben, la chaîne risque de péter à cause d'eux. Mais toi, si t'es un peu plus fort, c'est mieux.
Ouais, clairement.
Et l'attaquant, à côté de ça, il a juste à trouver un trou.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est
Donc,
qu'il a
le jeu
besoin
de
de
la
gagner
sécu.
qu'une fois, alors que nous, il faut gagner à chaque fois, quoi.
Exactement. Et donc, en fait, tout ce qui est super dur quand tu fais de la sécu, c'est que tu sais que tu vas perdre. Mais, en fait, il faut juste que tu sois une cible plus coûteuse à atteindre que le voisin. C'est assez égoïste, dit comme ça.
Ouais,
Mais
bah
en
c'est le
fait, c'est
bon vieux
ça.
rapport coût-bénéfice, quoi.
Ça. Donc, c'est juste que. Et c'est encore plus vrai quand tu es un gros gros poisson, quoi. Il faut juste que l'adversaire, tu lui coûtes trop cher. En temps, en argent ou en quoi que ce soit.
Discutais de ça avec un mec de sécu à l'époque où je vivais au Québec. C'était les balbutiements de la sécurité informatique, hein, c'était fin 90, tu vois, 98, 99. Et bah, se posait les problèmes à l'époque déjà, tu vois, de Windows 98 qui était littéralement une passoire et ils essayaient de sécuriser ça un peu. Et il disait, mais même si on sécurise à fond un système, si ce qu'on veut planquer dedans a assez de valeur, ben les mecs, ils peuvent envoyer un commando et arriver par la nuit, dans la nuit, par le toit et rentrer et piquer l'ordi. Et après, ils ont tout leur temps pour l'ouvrir, quoi.
Complètement.
Tu vois, c'est un problème global, en fait.
Ah oui, mais c'est pour ça qu'il faut pas envisager le numérique tout seul. Il faut l'envisager au milieu du reste. C'est déjà intéressant de l'envisager seul parce que comme ça te permet de bien le comprendre et tu le regardes sous boîte de Pétri, au microscope. Mais une fois que tu as fait ça, ben, tu as juste vu un seul silo. Mais d'ailleurs, il faut s'occuper de tout le reste. Et donc si tu pousses le truc, ben, c'est là que ça va être intéressant d'aller voir le set pour la partie nature. C'est là que ça va être intéressant d'aller aussi voir dans d'autres domaines. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que notre sécurité personnelle, elle n'est pas que numérique, elle passe aussi par le physique et par d'autres choses.
Ouais, la
Et
santé.
donc, ouais, ça. Donc, en fait, c'est une démarche qui est globale.
On a tendance tellement dans nos sociétés à compartimenter les problèmes, tu sais, à avoir une petite niche et un petit, une petite spécialisation et à découper les problèmes en espèce de niche écologique. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que ça ouvre un peu les chakras de la perception, tu vois. Ça permet de voir le problème de manière globale et de reposer aussi l'informatique et le numérique à sa juste place dans nos vies, quelque part, tu vois.
Ah ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, quand tu as un marteau dans la main, tu vois que des clous. En fait, non. Et donc c'est là ouais, que c'est intéressant de remettre ça dans le contexte et de te dire qu'en fait, c'est juste une petite partie, ou même petite que le reste. Et donc, on ne sera jamais spécialiste de tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Bien, ok, bah, ça vient, ça, en fait, ça vient de là. Et de pouvoir remonter un peu.
Ouais, et de fait, si
Et
tu
puis
vois le
ça participe à
problème,
l'autonomie de la personne.
clairement, et si tu vois le problème de la sécurité informatique dans son ensemble, bah de fait, peut-être que ta copie en dur sur un disque externe, tu vas la stocker pas dans le même local que ton laptop, parce que s'il y a le feu, ben, il y a tout qui crame, tu vois. Et ça permet vraiment d'avoir une approche beaucoup plus. Peut-être un peu plus chiante à mettre en place, mais plus réaliste, quoi.
Ouais, plus réaliste et puis plus fiable aussi.
Ouais.
Et puis en fait, une fois que tu commences à t'intéresser à d'autres choses, tu vas peut-être aussi relativiser. Relativiser sur tes usages, tu disais tout à l'heure, relativiser sur des risques, parce qu'en fait, tu as peut-être certains risques d'un point de vue informatique qui vont te sembler super élevés. Et en fait, tu vas dire, ah ouais, mais en fait, y a ce risque-là d'un point de vue physique, il est encore plus élevé. Et donc là, je suis en train de m'occuper de ma petite niche informatique, alors qu'en fait, il y a aussi d'autres choses. Mais
Ouais,
c'est juste
clairement.
il faut commencer par là. Ou par ailleurs. Mais en tout cas, ça te permet. Après tu répliques la méthode, parce qu'en fait, la méthode de risque, c'est plus de gestion du risque, c'est plus ou moins la même, quoi.
Bien
C'est
sûr.
tu t'intéresses au domaine particulier, probabilité, impact de chaque scénario, et puis ensuite tu traites. Mais c'est pareil quand tu fais ton sac pour aller dans la verte.
Ah oui, tout à fait. Parce que la méthode d'analyse de risque que tu dis là, c'est exactement la même qu'on enseigne au CETS, tu vois. En stage de survie, on dit probabilité 0 à 5 fois gravité de 0 à 5, et puis voilà. Et tu hiérarchises tes risques pareil, c'est exactement la même méthode. C'est juste l'environnement est différent et que la compréhension que tu dois avoir des risques et des mécanismes du risque sont différents, mais c'est la même démarche, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis comme on pourrait le faire dans le monde numérique, au CEDS, vous avez la règle des trois qui permet de bien gérer ça.
Ouais, hiérarchiser pour le coup les besoins, mais ouais, on pourrait imaginer la règle des trois informatiques d'ailleurs. Tiens, faudrait y réfléchir.
Ouais, je viens de tendre le bâton pour me faire battre
Ouais, je pense
là.
que tu auras du boulot. Cool. Bon, du coup, simple, troisième principe. Premier principe. Adapter la réponse et les démarches au niveau de risque en fonction de l'utilisabilité, de la difficulté et du coût. Deuxième principe, analyse de risque. Troisième principe, faire simple.
Bon, bah, quatrième, faire des process. Parce qu'une fois que tu as réfléchi, c'est dommage de devoir réfléchir à la même chose tout le temps.
C'est clair.
Donc, en fait, par exemple, on va revenir au mot de passe parce que c'est simple, ou à la capote USB. Bah, tu dois recharger quelque chose. Tu dois recharger ton téléphone, que ce soit sur du matériel à toi ou du matériel d'autrui. Capote USB. Simple.
Carrément.
Voilà. Et une fois de temps en temps, tu peux réévaluer ton process, te dire, est-ce que ça vaut toujours la peine? Est-ce que, mettons que le prix des capotes USB explose et que tu aies besoin d'en avoir un peu plus parce que tu veux en avoir une dans chaque sac parce que c'est pratique, ça t'évite d'avoir à y penser. Bah, tu vas peut-être réviser ton process, tu vas peut-être te dire, ok, bon, je vais peut-être en. Bon, il faut que je me fasse un nouveau kit. J'accepte de ne plus recharger, enfin de ne plus utiliser la capote USB quand je recharge sur du matériel à moi. Donc mon chargeur stock de la marque de mon téléphone, ma batterie que j'ai achetée dans un endroit, tu peux dire ça.
Ouais.
Mais tu vas le réévaluer, mais tu vas le réévaluer consciemment. Et puis ensuite, tu l'appliques, et puis une fois de temps en temps, tu te reposes la question.
Puis du coup, tu laisses pas n'importe qui charger avec ton chargeur, etc. Tu vois.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait. C'est toute la réflexion autour de ça. C'est-à-dire que tu ne prêtes pas ton chargeur, tu prêtes enfin, à voir. Et pareil, tu perds ton chargeur. Surtout, tu ne vas pas te ruer sur la première chinoiserie que tu vas trouver au coin de la rue chez un vendeur à la sauvette. Tant pis, tu vas finir à la Fnac ou quoi, et ça va te coûter 20 balles, mais au moins, t'as pas un truc qui risque de te cramer ton téléphone. Parce que la chinoiserie du coin de la rue, tu sais même pas si elle va te délivrer les bons voltages et tout.
Clairement, je me suis déjà cramé des BlackBerry comme ça.
Ah.
Littéralement, ça fait de la petite fumée et après, j'avais plus de téléphone. C'était super.
Ouais.
Et aussi, enfin, y a des fils, même juste le fil, hein, pas besoin du chargeur, vu qu'il y avait des fils qui étaient
Ouais.
verrouillés, qui avaient même un serveur dedans et tout. C'était assez hallucinant.
Ben, les câbles Apple, par exemple, ils ont tous une puce dedans.
Ouais.
La puce permet d'être, en fait, à la base, nos langues te diront que c'est pour qu'Apple puisse vendre des câbles. Mais bon, le chiffrement qui est dedans est assez vite cassé. Et la puce est assez vite reversée et recopiée. Et donc, tu vas retrouver des câbles qui sont pas officiels en vente assez vite après la sortie d'une nouvelle version. Mais oui, il y a du code dans les câbles, ouais. Aussi fou que ça puisse paraître.
Ouais, c'est clair, mais la miniaturisation qu'on a aujourd'hui, elle permet quand même de. Enfin, quand tu vois que tu peux stocker. On est à quoi? 1 Tera sur une petite micro USB là.
Ouais. Mais au-delà de ça, tu vois encore une micro SD, tu sais que c'est un support de stockage, tu sais que c'est du code. Aujourd'hui, tu vas avoir, enfin aujourd'hui depuis quelques années maintenant, tu as des télés, des voitures, des frigos qui ont du code à l'intérieur.
Ouais, clairement.
Bah, je t'en parlais la première fois qu'on a enregistré l'émission. Je crois que ça date de 2015, quelque chose comme ça. Il y a deux chercheurs américains qui ont mis un journaliste de Wired, un gros journal de tech US, dans une Jeep Cherokee à l'époque. Et puis ils lui ont dit, vas-y mon gars, roule. Et donc bah, il était heureux, il pouvait essayer la voiture. Et il était sur une vraie route, hein, il y avait des voitures autour et tout. Et puis à un moment, il voit apparaître la tête des deux gus sur l'ordinateur de bord de la bagnole. Et puis là, il entend leur voix au haut-parleur. Et là, les deux lui disent, alors t'inquiète pas, tu vas finir dans le fossé dans pas longtemps. Et le journaliste, bah, il raconte ça dans l'article, c'est assez bien écrit. Puis il y a une belle photo de la bagnole au fossé dedans. Bah, en fait, il te dit que la voiture a freiné. Le volant était pour aller tout droit, et, bah, les roues ont tourné, ça a braqué à gauche, et hop au fossé.
Ouais.
Et tout ça avec une voiture non modifiée.
C'est ouf.
2015.
C'est ouf. Avec déjà du coup les systèmes d'électronique embarqués, ESP, machin, qui.
Avec tout. Mais parce qu'en fait, les chercheurs s'étaient rendu compte que dans la voiture, il y avait une puce. GSM avec de la data qui permettait de faire remonter les diagnostics au constructeur. Et puis ensuite, bah, ils se sont aperçus que ce système-là était relié à d'autres systèmes, dont le système d'infotainment, donc tout ce qui est le son, la vidéo, enfin tous les trucs qui sont pas utiles à la voiture mais qui font que ça fait du confort. Mais aussi que au même réseau, enfin par rebond, ils ont réussi à accéder au moteur, aux freins. La direction, enfin, que des trucs qui servent à rien et qui sont pas importants. Et donc le résultat, c'est que, bah, en fait, à force de travailler sur la voiture, ils ont réussi à se l'approprier complètement à distance.
C'est quand même fou, quoi. J'ai vu qu'il y a des ingénieurs chez Tesla qui s'amusent à se passer des vidéos de trucs intimes qui se passent à l'intérieur des bagnoles. C'est un peu le dernier délire.
Ouais, y a ça aussi avec les aspirateurs robots.
Ouais, j'ai vu ça.
Ou des employés pareil se refilent des vidéos. Bref.
C'est dingue.
Ben ouais, c'est dingue, ouais. Mais tu vois, ce qui est encore plus dingue, c'est que on se pose pas la question de est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle?
Ouais.
Parce qu'en fait, ouais, une Tesla, ils ont des remontées permanentes sur leur voiture, quoi. Alors, c'est sûr, c'est à des fins de diagnostic, c'est ce qu'ils disent. Mais ça peut être beaucoup plus. Ça veut dire que potentiellement, t'es piéton, tu passes à côté d'une Tesla qui est arrêtée, elle te filme.
Ouais, ça pose des vrais problèmes de vie privée, en fait.
Ouais. Et après bon, une fois que tu as dit ça, c'est bien. Mais est-ce qu'on fait quelque chose ou pas? Parce que bon, des Tesla dans la rue, il y en a.
Ah, ça oui, il y en a.
Donc je vais pas leur courir après avec des bombes de peinture pour enfin regarder, récupérer les schémas techniques pour voir où sont les caméras et leur courir après avec des bombes de peinture pour en mettre partout. On va me prendre pour un fou
Ça va
et puis
coûter
je vais
cher la
finir arrêté.
peinture.
Mais tu vois, il y a un... Mais donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, des fois on peut rien faire. Et c'est comme ça. Mais on peut aussi ne pas acheter de Tesla.
Ah ben moi je suis bien avec mon vieux RAV4 tout pourri avec quasiment pas d'électronique dedans. Ouais. Moi, il y a quand même l'injection et tout ça, mais à part biper quand je le fais déraper un peu trop vite, il fait rien d'autre, quoi. C'est parfait. Ouais,
Donc t'as quand même une voiture qui parle.
ben ça, pour biper, elle bipe, hein, mais sinon, mais ça va. Et il y a le moment où je vais devoir la changer parce qu'elle est vraiment vieille et j'ai pas envie, tu vois. Enfin, j'aime bien le low-tech comme par principe,
Ah
tu
ouais,
vois.
c'est bien le low-tech. C'est
Ouais.
pratique.
Ouais, clairement. J'ai eu longtemps, longtemps des vieux Nokia tout pourris à touche, et ça faisait bien le boulot, quoi.
Ouais. Ouais, puis l'avantage, c'est que quand tu lances dans un mur, c'est le mur qui perd.
Ouais, clairement. Et je me suis baigné avec, je l'ai sorti, je l'ai mis dans du riz, ça repartit. Tu l'éclates, la batterie se barre et tu le remets, ça redémarre. Tu le poses avec la batterie dedans pendant 2 ans dans le tiroir, tu le rallumes, il est encore à 100%. Enfin, c'est vraiment, c'était top, hein.
Ah bah ouais, c'est incroyable ces trucs-là.
C'était
C'est
top. Le
incroyable. Mais en
problème,
fait,
c'est
ce qui est
que.
grave,
Ouais.
c'est l'obsolescence.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, tu le redémarres, ton Nokia, je suis même pas sûr qu'il arrive à se brancher en Edge.
Eh ben non, il peut plus. C'est le problème. Et enfin, ici, à la Cambrousse, peut-être encore, mais il y a plein d'endroits, il n'y a plus la 2G. Ouais.
Donc après, il y a ça aussi. C'est que, en fait, t'es obligé d'y aller à marche forcée parfois.
Bah ouais, comme les
Et
mises à jour.
comme les mises à jour, et puis tu peux pas faire ça, en fait. Il y a plein d'endroits où tu peux pas. Alors, je fais le test une fois de temps en temps, je m'amuse à sortir un billet pour payer. Et il y a des endroits où on me regarde avec des grands yeux et on me dit, monsieur, j'ai pas la monnaie. Et j'ai regardé, en fait, ils sont obligés, le texte de loi dit qu'ils sont obligés d'accepter ton paiement en espèces en France. En revanche, c'est à toi de faire l'appoint.
Ouais, ils sont pas obligés d'avoir la monnaie, ça c'est clair.
Non. Donc, si tu en as pour 15,50 et qu'en fait, t'as un billet de 20 sur toi, ben, faut que tu sois prêt à lâcher les 4,50
Ouais,
s'ils n'ont
exactement.
pas la monnaie.
Exactement.
Donc, ouais, t'es obligé d'y aller à marche forcée parfois. Mais encore une fois, le smartphone, tu peux y passer à marche forcée, mais t'es pas obligé de craquer complètement.
Ah ben c'est clair.
Parce que, ouais, qu'est-ce qui t'oblige à avoir tes réseaux sociaux dessus? Tes
Ouais,
mails?
rien du tout.
C'est sûr qu'aujourd'hui, t'as pas WhatsApp, on va pas, personne va comprendre. Mais à part ça,
Ben ouais, moi j'ai tout l'été dernier, j'avais un vieil iPhone avec plus aucun réseau social dessus, j'avais que les messageries, les différentes messageries sécurisées. Et puis bon, les mails parce que je suis pas trop addict aux mails, mais j'avais enlevé tout ce qui était réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, machin, tous les trucs qui te sollicitent en permanence. Et franchement, ça change la vie, quoi. Et toutes les messageries étant silencieuses, sauf celle sur laquelle je voulais être joignable en priorité pour les proches, et c'est tout, en fait. Et c'était trop bien.
oui, mais ouais, c'est trop bien, mais tu vois, le point que tu soulèves, il est intéressant aussi. En fait, tous ces systèmes-là, aujourd'hui, ils ont été conçus pour prendre ton attention. Donc là, on sort un peu de la cybersécu perso, et on passe plutôt sur l'usage quotidien. Mais en fait, tu peux aussi te libérer un peu de ces trucs-là en shootant toutes les notifications.
Ah, clairement.
Est-ce que tu as besoin de savoir quand il y a un article du Monde qui sort? Déjà, est-ce que tu as besoin d'avoir l'appli du Monde sur ton téléphone? Et si tu l'as, est-ce que tu as besoin de savoir qu'il y a un article? Non.
Non, clairement pas.
Même, et comme tu disais, tu vois, sur les messageries, est-ce que tu avais besoin de savoir, est-ce que tu avais besoin d'avoir la dernière notif de telle appli? Pas forcément, en fait. Juste, tu regardes une fois de temps en temps, une à deux fois par jour, et ça peut suffire.
Bah ouais. Ouais,
Et ça peut se faire aussi bien au bureau, sur les mails, enfin,
Et puis moi j'avais prévenu tout le monde, hein. J'avais dit ok, je fais une diète, une diète d'information là, je prends mes mails deux fois par jour, le matin et le soir, et pour les urgences, il y a telle messagerie. Pour les gens avec qui je bosse, tu vois, et qui ont vraiment besoin de me joindre, des fois de manière urgente, et mes proches. Et tout le reste, c'était deux fois par jour. Matin et soir, je regardais, je m'occupais des urgences qui étaient encore urgentes le soir, et puis c'est tout, tu vois.
Ouais, mais ça marche bien aussi.
Grave. Et je n'ai jamais été autant productif parce que de fait, j'avais le temps de me concentrer et je pouvais juste focusser sur mes trucs, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, tout ça prend ton attention pendant même pas une seconde. Mais ça veut dire que là, tu viens de sortir de ton schéma de pensée, de ce que tu étais en train de faire, et ça te prend un temps fou de t'y remettre.
Ah ben c'est clair, avant de rentrer dans le
Donc,
même flow, il faut, enfin, il y a des études qui disent qu'il faut jusqu'à 20 minutes, tu vois.
ouais, c'est ça.
Donc clairement, tu as
Ouais.
au moins une sollicitation toutes les 5 minutes, hein, au gros minimum,
Ouais,
quoi.
c'est ça. Ouais. Ben c'est pour ça que même quand tu gères ton emploi du temps, c'est intéressant de ne pas mettre de réunion en plein milieu de la demi-journée. Soit au début, soit à la fin. Mais comme ça, tu as du temps en vide pour faire le reste,
Ouais,
penser.
c'est clair. C'est clair. Mais ça fait partie de simple, hein, en fait.
Ouais. Ouais, ça fait partie de simple. Ça fait partie de ça.
Et tant qu'à digresser, depuis quelques mois, là, je priorise mes priorités, tu vois.
Ouais.
J'ai arrêté de tout prioriser et j'accepte sciemment d'abandonner plein de projets et plein de trucs et de laisser de côté tous les trucs secondaires qui n'ont pas vraiment du sens et je me concentre vraiment en priorité avec une analyse du kiff, tu vois, genre
Ouais.
probabilité de kiffer et quantité de kiff disponible et je fais sympa la blague pour faire un parallèle avec l'analyse de risque, mais c'est tellement mieux parce que au final je fais autant de trucs, je suis autant productif, je fais tous les trucs significatifs et tous les trucs à haute valeur ajoutée qui ont vraiment du sens pour moi et je les fais vachement bien parce que le reste du temps je me repose et je réfléchis et je glande et
Ah.
je recharge mes batteries, tu vois.
Mmh, c'est génial, mais c'est une phrase que tu m'avais dit il y a quelques années. C'était sur les urgences.
Ouais.
Où tu disais que c'était pas parce que c'était l'urgence de quelqu'un que c'était forcément la tienne.
Ah ben c'est clair.
Et ça m'avait bien fait relativiser. Et justement, pour la priorisation, c'était super intéressant.
Ah ouais, c'est un peu vache, hein, mais il y a plein d'urgences que les gens ont vraiment l'impression que c'est urgent et que si tu fais rien, ça se règle tout seul, hein.
Ouais, oui, parfois le problème s'en va tout seul, et puis sinon aussi, tu peux relativiser aussi. En fait, qu'est-ce que ça va changer si c'est pas fait dans les 2 heures que tu me donnes?
Ah ben c'est clair.
Rien. Bon, bah c'est pas urgent alors.
Ouais, voilà.
Ou ça fait 2 semaines que tu le savais. Bon, bah c'est pas urgent.
Ah ouais, mais j'ai encore un exemple qui date de ce matin, tu vois, j'étais sur Telegram avec un de mes moniteurs que j'adore, en train de commencer à préparer un stage qui aura lieu cet été, mais c'est même pas sûr, c'est un groupe d'une boîte qui veut venir et machin, et on est en phase de négociation du prix, du terrain, de la dispo, de machin. Et il était en train de me demander, oui, mais si on fait du feu cet été, comment on fait? Ça va être vachement dangereux, machin et tout. Je fais, mais écoute, on verra, tu vois. Déjà, on aura besoin de 10 minutes pour y réfléchir dans les jours qui précèdent le stage pour trouver une solution à ça, tu vois. Pour faire dans un endroit vraiment sécurisé, quitte à le faire en dehors de la forêt, dans un barbecue, je ne sais quoi. Du coup, je disais, mais quand on arrivera à la rivière, on traversera le pont, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Et je trouve, enfin, c'est Napoléon, il s'amusait à ouvrir le courrier que 3 semaines après l'avoir reçu, alors que déjà c'était du courrier qui mettait des semaines à arriver, tu vois. Et il se marrait de voir tout ce qui s'était réglé tout seul pendant les 3 semaines, tu vois. Et je pense qu'on peut prendre du recul sur pas mal de sujets qui nous inquiètent à fond, tu vois.
Ouais, complètement.
Bref, on a un peu dévié de la sécurité informatique, mais c'est, on va dire, c'est de la sécurité pour notre psyché et ça fait partie du
Ouais.
truc.
On dira que c'est connexe.
Ouais, c'est connexe. Il faut espérer, parce que si on cloisonne complètement notre intelligence d'abeille, il y a un problème, quoi.
Ouais. Ouais. Ouais, mais tu vois, ça me fait quand même penser à quelque chose sur la résolution de problèmes. Et quand tu fais ton analyse de risque, pour revenir un peu au sujet,
Ouais.
c'est qu'en fait, c'est intéressant de penser comme on vient de le faire, un peu en cascade. Où, tu passes d'un thème à l'autre, dis bon, ok, il y a ça, ah, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi. Et quand tu vas faire tes mesures, tu vas faire la même chose. Tu dis ok, je peux mettre ça en place, mais aussi ça, et aussi ça encore. Et ouais, mais si je fais ça, bah, par exemple, pour la sauvegarde de tout à l'heure, je fais une sauvegarde de mon téléphone. Ouais, mais ma sauvegarde, comment je la gère? Ouais, mais si, et ça. Et donc, en fait, on en arrive à plein de petites choses. Et ce qui est intéressant, en fait, après, c'est une fois qu'on a pensé un peu comme ça en cascade, c'est de se remettre à penser en arbre ou en graphe et de commencer à tout relier. Parce que sinon, tu penses en silo. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est de refaire une espèce de jolie toile d'araignée où on se rend compte qu'en fait, avec une seule mesure, on va pouvoir régler plein d'autres problèmes.
Ouais, ça c'est cool.
Et qu'il faut pas non plus forcément s'ancrer, tu vois. La dernière fois, quand on parlait de tout ce qui était NAS et stockage réseau, c'est super bien le stockage réseau. Et y a plein de solutions pour le faire. On pourrait se dire, acheter tel truc, ça m'embête un peu, il y en a pour un billet, je vais faire ça avec un Raspberry Pi, un vieux disque dur qui traîne. Bon, déjà, il en faut deux, parce que comme ça fait de la redondance, les disques durs. Mais après, surtout que le Raspberry Pi, ben, il faut le mettre à jour, il faut le maintenir, il faut faire en sorte que la grappe de disque dur ne tombe pas. Après chaque mise à jour, ça fait du boulot. Et ça prend un peu de temps. Et l'autre solution, bah oui, c'est de mettre le billet sur la solution de base. Et oui, ça coûte cher, ça coûte quelques centaines d'euros. C'est pas donné. Mais au final, quand on en a besoin, bah ça marche. Et donc c'est du temps de gagner c'est du temps de gagner plus tard. En fait, c'est de l'argent qu'on dépensera pas plus tard.
Ouais, ça.
Parce que si ça se trouve, au final, la solution Raspberry Pi, ça va nous gonfler. Donc au bout de 6 mois, on va dire, ça marche pas, ça me prend trop de temps. Et on va acheter le truc à quelques centaines d'euros.
Ouais, donc on
Ou
dépense
alors
de l'eau, quoi.
on va s'entêter. Dire, non, j'ai commencé, je fais le bourrin et je fais le bourricot. Et puis, bah, j'y passe des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures, des heures. Bon, et puis il y a une bonne âme à Noël ou à l'anniversaire qui va nous acheter un NAS, quoi.
Ouais. Ou alors on arrête parce que ça nous saoule et on dit fuck, je le fais pas.
Voilà.
Et du coup, on fait nos
C'est
backups
ça.
tous les 6 mois et c'est là qu'on a une tasse de café dans le laptop, quoi.
Ben voilà. Donc ouais, il y a aussi pas mal de coups cachés, pas mal de réflexions comme ça à avoir. Et aussi autre chose, ça va un peu avec faire simple, c'est faire progressif.
Ouais.
Rome, c'est pas fait en un jour, et il faut pas tout changer d'un coup.
Ouais, c'est clair.
Ce qui peut être bien, c'est de profiter d'un événement un peu particulier. Dire, ok, je pars en vacances à l'étranger. Ok, je mets en place quelques trucs. Parce que j'ai pas envie d'emmener toute ma vie numérique avec moi en vacances, j'en ai pas besoin. Mettons que dans le pays où on va, le risque de vol est assez élevé. Ben, j'ai pas envie de prendre ce risque-là, donc qu'est-ce que je peux faire? Et donc profiter de ça pour mettre en place quelques petites mesures, ça permet de s'essayer un petit peu. Et au pire, les vacances, elles durent que 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, ben, j'essaye, j'étreine, je vois ce que ça dit. Et puis comme ça, en rentrant, ben, si ça vaut le coup, je continue. Et si ça va pas, je réajuste. Et puis je reprends. Mais ça fait un bon galop d'essai.
Ouais, clairement. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que bon, en France, on a un cadre légal qui est vachement. Enfin, au niveau de l'État, il y a un cadre légal qui est vachement contraignant et les services divers et variés de l'État ne vont pas commencer à aller fouiner dans les téléphones de tout le monde comme ça gratos. Même moi, j'ai eu le cas bah, aux Canaries, hein, donc je suis techniquement en Espagne, je ne suis pas loin du Maroc, mais je suis encore en Espagne. Et dans la nuit à l'hôtel, j'avais un petit décompteur de data pour être sûr de ne pas me faire exploser mon forfait. Et j'ai uploadé dans une nuit 27 ou 29 gigas, donc l'intégralité de mon téléphone. Qui est parti, je sais pas où, tu vois. Et donc enfin, j'ai fait le calcul, ils ont siphonné 100% de la carte SD qu'il y avait dedans et tout le contenu de mon téléphone, complet, complet.
C'est un peu violent quand même.
C'est un peu violent, ouais. Et surtout que je suis personne, tu vois. Enfin, à part que je suis instructeur de survie et que des fois je bosse avec des boutiques prestigieuses pour l'État, mais c'est tout, tu vois. J'ai aucune info particulière. Et mais ils m'ont siphonné 100% du téléphone. Et je te promets, ça m'a fait bizarre, tu vois, parce que à l'époque, j'étais pas
Ouais.
trop sensibilisé à tout ça. Je faisais un peu minimum gaffe. J'avais des mots de passe solides et tout, mais là, ils m'ont tout pompé, quoi. Et bon, il n'y avait rien de compromettant. Je pense qu'ils se sont emmerdés à analyser tout ça, tu vois. Mais tu vois, c'est pour dire que bon, en France, on est un peu sous un cocon de droits humains et assez protégés. Mais c'est pour peu qu'on aille dans d'autres pays. Et on parlera pas de la Chine parce que là, tu es obligé d'installer WeChat, tes machins, les trucs, et c'est foutu. Tu as toute ta vie qui appartient au PCC. En tout cas, en théorie, tu vois. Donc, ouais. Je pense que le voyage à l'étranger, c'est un bon sujet en soi. Et moi, à partir de cette fois-là, j'ai commencé à partir du principe que mon compte Google, mes photos perso, et tout ce qui n'était pas indispensable restait en France et que je me déplaçais avec un téléphone dédié, au pays où j'allais, quoi.
Ouais, bah c'est une bonne mesure, ça. C'est une bonne mesure. Mais tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'il a fallu que t'en passes par là.
Bah ouais, c'est con.
C'est con. Bah c'est comme ça qu'on apprend, hein.
Ouais. Et ça me motive à faire un sujet sur la sécurité informatique aujourd'hui, tu vois, donc c'est pas perdu.
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pas moi qui vais dire le contraire, mais c'est vrai que c'est un peu dommage, et surtout qu'il y a des règles simples. Mais tu vois, le problème avec tous les outils numériques, c'est qu'on nous les met dans les mains sans nous expliquer le pourquoi du comment. Encore une fois, comme la voiture. La voiture, on t'apprend à quoi il sert le clignotant. On te dit, quand t'appuies sur la pédale de frein, les petites lumières rouges s'allument derrière, et le mec qui est devant toi, ça fait pareil. Mais c'est tout. Alors, on te dit pas pourquoi ta voiture elle boit du sans-plomb 98 et pas du diesel, du gasoil. Quelles sont les différences? T'as pas toujours besoin de savoir ça.
Mais
Mais encore une fois, ça. Comment?
plus t'en sais, enfin, j'ai mon vieux dicton, il y a ceux qui, enfin, le monde se divise en deux catégories, il y a ceux qui comprennent comment ça marche. Et il y a ceux qui payent, ceux qui comprennent comment ça marche, quoi.
C'est un peu ça, ouais. Ouais. Bah, en fait, on a un peu le même chez les informaticiens. On te dit qu'il y a 10 types de personnes. Ceux qui savent compter en binaire et les autres. Voilà. Pour ceux qui nous
L'avais
écoutent
déjà
et
vu.
qui comptent pas le binaire, je vous laisserai chercher.
Ouais, c'est une blague un peu graphique, mais.
Ouais, un peu graphique.
Mais ouais, je l'avais vu passer sur Twitter, celle-là, et je l'avais trouvé génial.
Elle est très rigolo.
Ouais, elle est mignonne.
Même en plus.
Ouais.
Pour une blague d'informaticien, elle est plutôt mignonne.
Ouais, c'est clair, parce que des fois, ça vole pas très haut. C'est un peu comme les blagues de garagistes, en fait. Hein. Ou les blagues de mecs, en général. Je pense que peu importe le domaine, c'est un peu pareil.
J'ai des poètes.
Ouais, des poètes, des créatifs, la rime riche, tout ça.
Ouais.
Yes. Donc, simple.
Ouais. Simple.
Et ensuite?
Et ensuite, bah les process.
Ouais. Ah, pardon, les process, on en était déjà au process.
On est déjà au process.
Ouais,
Mais les
et donc.
process sont simples, idéalement.
Ouais, c'est pour ça que j'ai re-switché sur simple, parce qu'on a déjà commencé à parler de process, en fait. Mais des process simples, mais pas simplistes. Donc bien foutu, donc qui tiennent compte des premiers principes, en fait.
Ouais, des premiers principes et surtout qui sont pas trop rigides.
Ouais.
Parce que, et ce coup-là, je me souviens de la phrase, c'est que j'aimerais bien vivre en théorie, parce qu'en théorie, rien ne se passe comme en pratique.
Non mais c'est clair.
Et en fait, ton process, s'il est beaucoup trop figé, il va être très théorique. Et sur le papier, tu vas le trouver super beau. Ça va être magnifique, ça va tenir en peu de mots, ça va te sembler limpide et tout. Et puis, le jour où tu vas arriver sur une situation qui n'était pas exactement celle à laquelle tu avais pensé, qui est une situation pratique et donc pas théorique, bah, ton bec va finir droit dans l'eau.
Ouais, c'est clair. Mais d'où l'intérêt d'avoir des outils simples, en fait. Encore
Ouais.
là, c'est un parallèle que je fais avec la survie. Plus tes outils sont simples, plus ils vont fonctionner dans un grand panel de situations et plus tu vas pouvoir les détourner aussi de leur utilisation première.
Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Et en fait, tu m'as mené au cinquième point, qui peut être les outils. Parce qu'en fait, tes process, tu vas les décliner sur des outils. Et les outils, ça va être Keepass, ça va être la capote, ça va être les applications de messagerie chiffrées, ça va être les VPN.
Les gros mots de passe.
Ça va être tout ça, quoi.
Ouais.
Et donc tout va s'imbriquer et se compléter. Et au pire, si tu vois, s'il y a un des outils un jour qui est plus maintenu, qui est plus compatible avec la technologie actuelle, ben tu vas en trouver un autre qui fera le taf. Et ton process, tu vas l'adapter sûrement un petit peu. Mais c'est pas grave.
Ouais, et j'ajouterais un autre principe, si tu permets, que moi j'applique. Je sais pas ce que ça vaut, tu vas me dire, mais c'est de protéger physiquement l'accès aux machines, tu vois, aux bécanes, au téléphone, au machin. Tu vois, j'ai tendance à. Surtout si je suis en ville, je n'ai jamais traîné mon téléphone. Je vais toujours l'avoir au fond du sac ou dans la poche. Si je pars en voyage, ben mon laptop, il est dans un endroit un peu planqué de la maison qui va faire que si quelqu'un le trouve, ben voilà, il le trouve. Mais l'idée, c'est qu'il l'ouvre pas et qu'il ne réussisse pas à trouver le code et à rentrer dedans, tu vois.
Ouais. Ouais, mais là on en revient, tu vois, à ce que je disais sur le système d'information.
Ouais, c'est vrai.
Il y a un périmètre physique, il y a des matériels, des logiciels, des process et des hommes. Et donc on peut le calquer un peu à toi et ton environnement numérique.
Ouais, tout à fait.
Et donc oui, le périmètre physique fait sens et t'as intérêt à le protéger aussi.
Ouais, y compris le micro du téléphone ou la présence du téléphone. Si je discute de trucs confidentiels, il vaut mieux que le téléphone soit pas à côté de moi, ni l'ordi, ni la montre connectée, ni la paire d'oreillettes Bluetooth qui sont connectées au téléphone qui est plus loin, ni rien en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, et après, là, tu vois, tu rentres dans le mode gros poisson.
Ouais, je suis un peu parano.
Ah bah après, t'as le droit, et puis tu peux t'amuser aussi un peu à essayer des trucs. Mais oui, après, tu peux pousser le vice. T'es sur la gradation et sur ce que tu t'autorises à faire avec ton matériel numérique. En te rappelant que parfois, la meilleure solution, c'est de ne pas avoir de matériel numérique.
Ouais, c'est clair.
Et de faire autrement.
Ouais, et puis il y a une espèce de facilité à avoir tout connecté, tout interrelié, tout machin. Tu vois, l'Apple Watch sur l'iPhone, sur le téléphone, sur le truc, sur le laptop. Et c'est vrai que c'est pratique, tu vois. Là, avec mon iPhone, je peux copier-coller sur mon ordi. C'est vrai, c'est super pratique. Mais est-ce que c'est pas une faille de sécurité en plus, tu vois? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que je peux pas faire bosser ma mémoire pour me rappeler du mot de passe pendant 22 secondes, tu vois?
Ça veut dire que ton mot de passe, il passe par un cloud.
Ouais, voilà.
Ouais. Mais tu as d'autres moyens de faire, tu vois, ton mot de passe, tu peux le mettre dans ton Keepass.
Ouais, bien sûr. Bah, c'est ce que je fais
T'as
maintenant.
ça, ben voilà. Mais tu vois, il y a le même problème avec le GPS que tu as sur ton téléphone. C'est tellement plus pratique de rentrer l'adresse où tu veux aller alors que c'est à 20 minutes et que tu sais à peu près où c'est. Sauf qu'en fait, sinon, tu t'en souviendrais. Tu connais l'entrée d'autoroute la plus proche, tu as regardé le chemin sur la carte. Et tu fais ça de tête.
Clairement, puis au pire, si t'es paumé, tu mets le GPS, mais tu t'entraînes à le faire sans, quoi.
Ben c'est ça, tu t'entraînes à faire ça.
Ouais, puis
Parce
tu
que
maintiens
sinon,
tes
tu te
capacités,
prends à
quoi.
minima dépendant. Ouais. Tu es au minimum dépendant de ce truc-là.
Ouais, puis ça devient une prothèse qui atrophie forcément tes capacités à toi, et moi, par principe, ça me dérange, en fait.
Ben ouais. Ouais, tu perds, en fait, tu perds en autonomie. Et là, je parle pas de la batterie.
Ah non,
Désolé.
mais c'est clair. Tu perds en autonomie et tu perds en liberté automatiquement, et c'est chiant quoi. Et
Ouais, complètement.
enfin, toi, t'es un peu plus jeune que moi, mais je pense que t'as quand même eu connu dans ta prime enfance le moment où il n'y avait pas internet tout le temps et pas de téléphone dans la poche quoi.
Mais je suis naissant, hein.
Ouais, voilà. Tu
Je
fais
suis
encore
naissant,
partie de la génération bénie qui a appris à vivre sans tous ces outils numériques tout le temps, tu vois.
ben, en fait, je dirais que c'est même plus que ça. Je fais partie de ceux qui ont vu tous ces outils-là arriver chez ses potes, mais qui ne les avaient pas. Donc, je suis encore partie de ces gens où, quand on voulait se faire un cinéma quand j'étais gosse, on s'appelait avant chez nos, de maison à maison pour se dire, ouais, t'as vu la séance, on avait vu la séance sur papier, sur le programme papier, t'as vu telle séance de tel film, on se retrouve à telle heure devant le cinéma. Et s'il y en a un qui n'était pas là, bah, fallait qu'on attende le lendemain à l'école pour
Savoir pourquoi.
savoir, bon, qu'est-ce que tu foutais, pourquoi t'es pas venu?
Ouais.
Voilà. Et là, il nous disait qu'il s'était pris une rousse par ses parents parce qu'il avait fait, il avait pris un 0 ou un 2 en maths, tu vois.
Ouais.
Donc ouais, j'ai connu ça. Ouais.
Bah, tu vois, je
Mais
pense
c'était
qu'il y
chouette,
a.
aussi.
Mais clairement, et ça, de savoir que ça existe, tu vois, je vois, il y a des gamins aujourd'hui, je bosse des fois dans des facs pour enseigner mes conneries et. Là, depuis quelques années, j'ai des générations de gamins qui ont toujours eu des téléphones. Ils ont toujours eu des smartphones, même. Tu vois, même pas juste des vieux Nokia, ils ont toujours eu des smartphones. Depuis leur tendre enfance, ils ont des pouces rétractiles qui savent taper plus vite que moi je parle, tu vois, c'est hallucinant. Et ils ont ça tout le temps greffé dans la main. Et alors, ils peuvent apprendre à s'en passer. Mais la plupart ne voient pas l'intérêt. Tu vois,
Je vois pas l'intérêt.
je leur enseigne à lire des cartes, à machin, un truc, mais ils sont en mode, mais à quoi ça sert? C'est quoi ce truc? Tu vois, je vais en voyage, j'ai mon téléphone, tu vois. Ok.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr, jusqu'au jour où il n'y a plus de réseau. Ou...
Ouais, ou il est pété, ou
Bon,
il
là,
n'y a
après,
plus
ils
de
diront qu'ils ont une
batterie.
carte en ligne sur leur téléphone, mais...
Oui, mais puis ils ont toujours des potes qui ont des téléphones aussi, et tu vois, c'est un système à zéro bus, mine de rien, tu vois.
Ben, c'est
Mais bon.
robuste, mais tu vois, j'ai un souvenir là qui me revient maintenant qu'on en parle de ça. J'étais assez vieux déjà, enfin, j'étais quasiment au bac, et j'avais pas de téléphone, moi. Et tous mes potes, ils avaient un téléphone, donc on revenait un peu plus tôt de la cantine et on s'asseyait dans la salle, par terre, dans la salle de cours. Et plutôt que de discuter, eh ben en fait, ils envoyaient tous des SMS. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de messages chiffrés, il n'y avait pas de tout ça. Et ben ouais, ils envoyaient tous des SMS, soit entre eux, soit à d'autres potes à eux qui étaient dans d'autres bahuts. Et personne parlait, en fait. On était juste un ou deux à se parler parce qu'on n'avait pas de téléphone, mais tous les autres, personne ne parlait.
Ouais, c'est clair.
Et
Pour le lien
c'était assez
social, ça
bizarre
a
à voir comme
vraiment
ça.
fait une différence, hein, c'est clair.
Ouais, ça a vraiment fait une différence.
Et pour le coup, je plaide coupable parce que je suis le premier à passer ma vie sur mon téléphone, à gérer plein de trucs et à pas parler aux gens qui sont dans la même pièce que moi. Hein. Ça m'arrive régulièrement.
Ben, ça arrive, mais t'en as conscience déjà?
Ouais.
Et puis après, ben après l'outil est quand même pratique, on va pas se mentir. Et puis t'as une boîte à faire tourner.
Ouais, même plusieurs, mais le truc c'est que j'ai envie de voir mes enfants, tu vois, et ce que je constate c'est que ben les moments où tu fais la queue à la poste, ben t'es sur ton téléphone, les moments où t'es arrêté au feu rouge, ben vite fait tu jettes un coup d'œil, les moments où même s'il faudrait pas parce que t'es au volant, tu vois, mais les moments où t'as un petit creux dans ta journée, ben ils sont remplis par ça, et ça devient une source de saturation énorme, je trouve.
Après, j'ai deux astuces pour ça. Enfin, une astuce et un outil que j'avais trouvé. Mais après, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais en fait, le téléphone, quand je veux pas être perturbé par ce truc-là, je le mets dans une autre pièce.
Ouais, c'est top.
Comme ça, même si ça sonne et qu'on m'appelle, ben, je sais pas. Et en fait, ben, je rappellerai, c'est pas grave, ou je rappellerai pas d'ailleurs. Et c'est pas grave. Et quand j'ai un temps mort, tu vois, et même quand je l'ai dans la poche, en fait, je me force à observer, à regarder autour de moi. C'est assez rigolo, en fait. Ça pose. Et puis c'est assez rigolo de voir mes congénères et de voir comment est-ce qu'ils interagissent, comment est-ce qu'ils interagissent pas, ou comment est-ce qu'ils se placent dans l'espace.
Et comment ils
Qu'est-ce
sont
qu'ils
tous
font
sur leur
justement de ce temps
téléphone?
d'attente-là?
Ouais.
Ouais, bah souvent, ouais, ils sont sur leur téléphone. Souvent.
Ouais.
Mais parfois, tu vois, une fois j'étais dans un métro et je faisais ça. Il y a quelques années maintenant. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas de protection de confidentialité sur leurs écrans. Donc tu vois tout ce qu'ils font. Ce qui fait que tu vois sur le net quelques photos de mecs qui sont en train de se regarder un film où les gens montrent leurs parties intimes. Et tu vois ça dans le reflet. Et, bref, ça c'est rigolo. Et ben là, ce jour-là, moi j'ai vu un mec qui était en train de faire un texto à Dealer Coke.
Non.
Voilà. Et bon, intérieurement, j'ai ri. Et après, j'ai regardé le mec un peu. Je dis, bon, bah, ok, toi, tu bosses dans la banque. Et c'était très rigolo. Donc, pas du tout de cliché sur les banquiers, hein. Mais voilà. Et donc, parfois, en plus, tu vois des trucs marrants.
Ouais, tu m'étonnes. Cool. Est-ce qu'on a fait le tour des principes ou est-ce que tu as encore des trucs à ajouter là-dessus?
Ben, disons que je pense qu'on a posé les bases là.
Ouais. J'ai l'impression aussi qu'on a posé les grands principes et après, ben, il y a pour chacun de ces principes une multitude de techniques et d'applicatifs et d'outils qu'on peut décliner, mais.
Ouais.
Après, ça faudrait une formation d'une semaine, tu vois.
Bon, une semaine peut-être pas, mais...
Mais bon, quelques jours, parce que, enfin, mine de rien, enfin, selon le niveau de compréhension que tu veux donner derrière, je pense que soit tu ouvres le capot, soit tu n'ouvres pas le capot, tu vois, mais y a
Bah,
de la
en fait,
matière, je pense.
ouais, il y a de la matière. En fait, après, ce qu'il faut arriver à faire, c'est en donner juste assez pour que le stagiaire, l'apprenant, ait les billes pour comprendre, mais pas trop pour pas risquer la saturation.
Ouais,
Parce que,
c'est sûr.
tu vois, j'ai pas besoin de t'expliquer comment fonctionne le chiffrement avec RSA. On s'en fout. Juste besoin de t'expliquer grosso modo comment ça marche, à quoi ça sert, et qu'est-ce que ça te permet de faire. Point. Les maths derrière, en fait, c'est pas important. Enfin, c'est important. L'implémentation, c'est important. Mais c'est important pour des crypto-mathématiciens, c'est important pour les gens qui font l'analyse de ce truc-là pour être sûr que l'implémentation, elle marche bien et qu'elle est bien conforme et qu'il n'y a pas de fuite et de faille. Mais c'est tout. L'utilisateur final, il n'a pas besoin de savoir comment ça marche.
Du coup, c'est pas des chiffro-mathématiciens, c'est des crypto-mathématiciens.
Les crypto-mathématiciens, ouais.
C'est pas des
Ah oui, non.
chiffres. Ah,
Non,
ça
c'est
me
pas des
perturbe.
chiffres. Non, parce que c'est de la cryptographie qu'ils font.
Ok. Je vais comprendre les détails un jour. Non, mais je comprends tout à
Il y a
fait
des
ce que
trucs
tu
comme ça,
viens
faut juste les accepter.
de dire. Ouais, ok. Je vais faire le deuil de ne pas tout comprendre les contradictions. Mais en attendant, enfin, je suis d'accord avec toi, on n'a pas besoin de connaître et de comprendre en détail comment ça marche, ni d'être spécialiste dans chacun de ces petits trucs, pour avoir une idée au moins qui permette la cohérence, la compréhension et de à quoi ça sert et pourquoi et où c'est important.
Ouais.
Yes. Tu fais
Ouais,
des
t'as tout résumé.
formations déjà sur ce genre de truc. Est-ce que potentiellement ça te dirait qu'on en lance une pour bah, du public que ça intéresse et qui serait enfin qui pourrait trouver une utilité à ça?
Je vais trouver une note.
Ok, et ben notez tout le monde. Nous sommes officiellement en recherche de date, Bruno et moi. On en reposera après si tu veux, mais je pense que ça peut être pas mal. Enfin, moi, à titre perso, ça m'intéresse de. Bon, tu m'as déjà donné plein de super conseils et de super billes, mais ça m'intéresse de creuser plus. Et je pense qu'on peut. Enfin, je pense que ça peut être utile pour plein de gens en vrai.
Ouais, c'est en fait, sans vouloir vendre mon truc, c'est super. Enfin, en fait, ça simplifie la vie. Parce que derrière, l'objectif, c'est de mettre des process en place. Et les process, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est du temps de cerveau que tu libères.
Ouais, c'est ça. Et d'être
Ben, tu te poses, tu te
autonome.
concentres, tu fais ton truc, et après, tu te libères du temps pour autre chose.
Et je pense que ce serait bien que cette formation, elle permette de devenir autonome sur la fabrication de tes process, tu vois. Sur la mise en place des
Ouais, c'est le but.
process.
En fait, c'est le but. Enfin, en fait, je conçois pas la chose autrement. L'objectif pour moi, c'est pas de rendre les gens dépendants.
Ouais, ça, c'est de les libérer encore plus, on est d'accord.
C'est de les libérer. C'est de les libérer. Bon, le, c'est pas, ouais, on fera pas des spécialistes, c'est pas le but.
Non.
Au même titre que moi, je suis pas spécialiste de plein de trucs. Mais au moins faire des gens qui sont en capacité de comprendre, d'aller chercher les informations aux bons endroits, et d'appliquer une méthode simple, de la comprendre aussi, parce qu'il ne faut pas l'appliquer bêtement.
Ouais.
Et à la fin d'avoir des choix conscients, c'est chouette.
Ah, grave. Si tu avais une recette toute faite à donner comme ça, là, vite fait, des conseils généraux pour monsieur lambda qui a un téléphone et un ordi et qui connaît rien, les trois plus gros trucs à faire, c'est quoi?
Ben, déjà, arrêter de brancher tout et n'importe quoi sur son matos. Arrêter de cliquer sur tout et n'importe quoi. Et le troisième, est-ce que je vais retrouver cette espèce de sticker que tu m'avais envoyé ou pas? Ouais, je l'ai. Il est là.
Alors,
Tu le liras à l'envers, je vais te le
non,
dire, ce
c'est
sera
bon,
plus simple.
je l'avais.
Voilà, cette
Lis-le.
machine n'a pas de cerveau, utilisez le vôtre.
Yes.
Voilà.
Qui m'a été donné par Guillaume, qui est un mec que j'adore, à qui je bosse pour les stages leadership et qui a une boîte qui s'appelle Cobel, qui fait de la gestion des risques et de l'éducation aux risques d'ailleurs, mais pour les entreprises. Du coup, ça, on voit qu'il y a des ponts, tu vois.
Bah ouais, carrément. Carrément.
Yes.
Donc ouais, s'il y a un truc à retenir, c'est ça, c'est qu'on a un cerveau, faut pas l'oublier, quoi.
Ouais, c'est clair. La facilité tue, quoi. Ouais.
Ouais, mais comme on disait avant, on s'y habitue vite, hein.
Ah, mais tellement. Et en fait, on a
Mais
une très très bonne capacité d'adaptation pour la flemme, tu vois.
ouais. Bah, tu sais que c'est ce qu'on dit des informaticiens, hein. Un bon informaticien, on dira que c'est un flemmard.
Mais pas
Mais en fait, c'est un
laxiste.
flemmard intelligent. C'est un flemmard malin. Parce
Ouais,
qu'en fait,
ça.
il va faire des process.
Ouais.
Et une fois qu'il a fait ses process, ben, il y réfléchit de temps en temps, mais sinon, il est tranquille.
Ouais, ça. Bah, c'est comme partout, tu vois. Dans l'infanterie, tu as les tailles, tu vois. Tu dis contact avant, bah, tu défourailles devant, et puis après, le chef, il dit quoi faire. Et puis, tu n'as pas besoin de réfléchir, ça se fait tout seul, c'est
Ouais.
drillé, c'est implémenté, tout le monde sait ce qu'il a à faire à quel moment. Et voilà, quoi. Moi, j'adore les process. Et je suis un gros. Moi, j'ai des process pour tout, tu vois. Je suis un psychopathe du
Bah ouais.
process. Quand je vais me coucher le soir, je commence à un coin de la maison, je check toutes les entrées, j'éteins les lumières, je ferme la porte, je prends mon sac, je le mets à côté de ma porte de la chambre. Tu vois, tout est fait de telle manière à ce que j'ai pas besoin de réfléchir et que ça marche. Tu vois?
Bah
Et depuis. Avant, je pensais que c'était que les psychorigides et les fachos qui faisaient ça, tu vois, mais en fait. En vrai, ça me libère du temps pour créer et pour kiffer la vie. Et c'est ce que, et depuis que j'ai découvert que ça fonctionnait comme ça, j'en fais partout, tout le temps, pour tout, quoi.
c'est trop bien.
Ah oui, mais moi je kiffe. Ça rend tout le monde cinglé autour de moi, tu vois, de me voir ranger ma brosse à dents à chaque fois que, quand je suis à l'hôtel, à chaque fois, même si, tu vois, même si on n'est pas en train de s'en aller, tu vois, de refaire ma trousse de toilette et de la remettre dans ma valise, mais fuck, en
Bon.
fait, parce que je sais où elle
Ouais.
est, tu vois.
Ben ouais. Ouais, mais j'ai le même truc que toi. Hein. À chaque fois, on me dit, mais pourquoi tu laisses pas tes affaires là? Parce que je laisse qu'un traîner quand je suis pas chez moi.
Ben ouais, c'est basique, t'as tout le temps tout sur toi.
Mais t'as tout le temps tout. Et c'est
Ben
simple.
ouais.
C'est simple.
Et c'est simple, et c'est efficace, et ça
Ouais.
t'oblige pas, t'oublies jamais rien et t'as pas besoin d'y penser, c'est trop bien.
Ouais. Le seul problème après, c'est que quand quelqu'un a besoin de Doliprane ou d'un sparadrap, c'est toujours toi qui viens d'en avoir parce qu'il sait que t'as tout avec toi.
Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est utile pour les gens,
Mais voilà, c'est utile.
c'est un problème si t'acceptes de lui donner, tu vois.
Ouais,
Mais t'es
mais
pas
je vais faire quoi?
obligé.
Je vais lui mettre un pain dans la gueule pour qu'il ait plus mal à la tête mais qu'il ait plus besoin de
Mais moi, ça m'est déjà
Doliprane.
arrivé de dire aux gens, tu vois, de dire oui une fois, deux fois, trois fois, puis de leur dire, mais tu sais, t'as souvent mal à la tête, ça serait bien que tu trimbales ton Doliprane dans ton sac. Et à un moment donné, je leur dis non. Et
Ouais.
là, ça leur fait tout drôle. Mais c'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. En fait, ça fait 4 fois que je te dépanne de Doliprane. C'est toi qui as mal à la tête, c'est pas moi. Donc, je vais arrêter d'être ton dealer de Doliprane gratos, tu vois. Ou
Non,
sinon, je te le vends 20
non,
balles.
mais... Ouais. Non, mais ouais, je l'ai déjà fait une fois ou deux, et comme toi, ça a créé l'incompréhension.
Ah oui, bien sûr. Mais c'est pas gentil. Bah, j'ai jamais dit que j'étais gentil.
Ouais.
Bref. Non, mais en vrai, je dépanne les gens en général. Hein.
Bah
Sauf
oui,
quand ils
non
abusent.
mais
En vrai.
on n'est pas des monstres non plus.
Ouais, peut-être un peu, mais on est des monstres gentils.
Juste un peu.
Yes. Bon, le mot de la fin, sinon, t'as quelque chose à rajouter? Parce que là, on a bien tchatché, hein. Ça fait 1h45 quasiment qu'on y est.
Ouais. Ben merci.
Mais merci à
Déjà.
toi. Merci à toi. Déjà, ça fait 2 fois qu'on enregistre, donc super merci, double merci. Et pour les infos, quoi. Et c'est tout?
Non, ben non, je pense qu'on a fait le tour, hein.
Carrément. On a bien. Enfin, là, je pense qu'on a des bons principes de base. Et après, enfin, ceux qui veulent fouiller de leur côté pour les appliquer, c'est carrément possible.
Ouais.
Et puis ça autonomise déjà bien, ça pose des bonnes bases, quoi. C'est super.
Bah ouais. Oui, puis on a donné quelques sources de bibliothèques où les gens peuvent aller voir déjà maintenant,
Ouais, carrément.
sur le site de
L'ANSI,
l'EFF,
etc.
sur le site de l'ANSI, même sur le, même juste sur Wikipédia, sur des pages un peu vulgarisation de Wikipédia,
Ouais.
des choses assez générales. Ça
Ouais,
permet déjà de
carrément.
comprendre un petit peu.
Carrément.
Mais ça passera, ça c'est plus le côté outil.
Ouais.
Le côté méthodo, bah on en a parlé là.
Ouais, c'est clair.
Voilà.
C'est super. Bah, génial. Merci beaucoup, Bruno. Et puis, bah,
Ben merci.
on raccroche pas, on discute date là, dans la. Si vous voulez soutenir le podcast, alors plusieurs manières de le faire. Premièrement, partagez-le, diffusez-le, faites en sorte qu'il soit écouté parce que c'est fait pour. Le podcast est gratuit et il restera toujours gratuit. Il est hors de question que ça devienne une usine marketing ou une manière de vendre des produits. Vous pouvez aussi financièrement soutenir le podcast si vous le souhaitez en allant sur le site survivologue.org. Il y a un petit onglet soutenir et vous pouvez faire un don par carte bleue à partir de 1 euro. Vous pouvez évidemment donner plus en augmentant le nombre de 1 euro que vous donnez. Sinon, faites des feedbacks. C'est toujours vachement intéressant et vachement utile pour moi et pour les invités d'avoir des feedbacks sur les contenus, sur des idées de sujets aussi, des idées d'invités. Bref, n'hésitez pas à commenter dans le blog Survivologue. Ou vous pouvez me faire un mail évidemment aussi à david.manise@gmail.com. Voilà. Merci beaucoup et puis surtout, restez pipou.